Vous êtes sur RTL.
Je m'interpelle entre vous et Claire, là, croyez-moi, je suis remonté. Merci à toute l'équipe de Nos Petits Matins et bonjour à vous tous qui nous rejoignez. Nous allons faire ce matin un point très complet sur la production des vaccins anti-Covid sur le sol français. Rendez-vous avec notre brigade et Sophie Orange dès 7h15 et nous donnerons ensuite la parole à l'économiste Nicolas Bouzou qui nous expliquera comment gagner la bataille de la santé grâce à la vaccination et reprendre en main en fait une économie bien malmenée. La pandémie va-t-elle changer la face économique de la planète? Je vais lui poser la question. Une pandémie toujours, mais vu de l'éducation nationale, avec l'énorme série de bugs connus hier par nos élèves et nos professeurs tentant de suivre leurs cours à distance. Jean-Michel Blanquer évoque des attaques venues de l'étranger, le témoignage du professeur Fabien Leduigou qui a essayé de faire cours hier et l'analyse de l'expert en cybersécurité de référence Nicolas Arpagian. Il sera à 8h20. Enfin, sachez qu'Alba Ventura reçoit aujourd'hui la toute nouvelle secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, dès 7h40. La pandémie ne fait pas de bien aux droits de l'homme. Juste avant 9h, notre rendez-vous avec Cyril Lignac qui nous donnera, lui, une recette de salade piémontaise, je le cite, qui tient au corps. Bonne journée à tous, il est 7h et nous sommes le mercredi 7 avril 2021.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'espoir d'une épilogue dans l'affaire Estelle Mouzin.
Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, aurait donné des indications très précises sur l'emplacement du corps de la petite fille, les informations de Thomas Proutot dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, une messe sans masque qui fait polémique à Paris et puis les vignes de Chablis menacées par le gel. Il fait moins 3 degrés actuellement sur place, nous irons avec notre envoyé spécial.
La politique, Olivier Bost.
Euthanasie, fin de vie, un débat demain à l'Assemblée empêché, mais qui finira par s'imposer.
Votre analyse dès la fin du journal.
RTL Matin.
La vérité viendra-t-elle de Monique Olivier, 18 ans après l'ex-femme de Michel Fourniret, a reconnu il y a quelques jours son implication dans la séquestration d'Estelle Mouzin en 2003. Les recherches se poursuivent en ce moment dans les Ardennes à proximité de la maison où le tueur en série aurait violé et assassiné la petite fille. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Il y a eu beaucoup d'espoirs déçus dans cette affaire, de fouilles infructueuses, mais cette fois, il semble bien que Monique Olivier ait fourni des indications plus précises sur l'endroit où se trouverait le corps.
Oui, ce qui fait toute la différence aujourd'hui, c'est que la complice historique de Fourniret semble avoir quitté le terrain du mensonge et de la manipulation. C'est le sentiment réel, solide, des proches du dossier. Et après une joute de 3 ans avec la juge Sabine Kéris, elle a avoué la semaine dernière ce qu'elle avait toujours nié. D'abord, Monique Olivier a passé quelques heures dans la maison de Ville-sur-Lume alors qu'Estelle était encore vivante. Puis elle est revenue 2 jours plus tard quand Michel Fourniret a fait disparaître la dépouille de la petite fille. Elle l'a alors accompagnée en camionnette dans une forêt située à quelques kilomètres. Le tueur en série aurait alors ensuite enterré Estelle seule. C'est là, dans un chemin forestier, que Monique Olivier a conduit les gendarmes et la juge la semaine dernière. C'est là que les nouvelles fouilles vont se poursuivre.
Vous avez eu longuement au téléphone le père d'Estelle, hein, Éric Mouzin. Il est confiant cette fois ?
Alors, celui qui se bat depuis 18 ans pour comprendre ce qui est arrivé à sa fille reste extrêmement prudent. Chaque étape et la publicité qui va avec est une souffrance pour la famille. Mais surtout, Éric Mouzin rappelle la perversité sans limite du couple et souligne sa jouissance jamais démentie à manipuler les enquêteurs et les familles des victimes. Michel Fourniret, quand il pouvait encore être interrogé, avait entraîné les juges sur une fausse piste encore à l'automne dernier. Pour lui, il n'y a qu'une chose à faire, attendre.
Thomas Proutot.
À Paris, une enquête ouverte après une messe de Pâques sans masque.
Enquête pour mise en danger de la vie d'autrui après la diffusion des images de cette célébration pascale dans l'église Sainte-Eugène, Sainte-Cécile, dans le 9e arrondissement. On y voit des fidèles, âgés pour la plupart, serrés les uns contre les autres. Le diocèse a fait part de sa stupéfaction. Nerissa Imani, vous êtes retournée sur place. Le virus semble s'être arrêté aux portes de l'église.
Oui, Michel était dans l'église ce jour-là. Elle-même ne portait pas de masque et ne voit pas où est le problème.
Il y a beaucoup de gens qui désobéissent. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. À la télévision, vous avez des jeunes aussi qui ne sont pas du tout dans le coup et qui font des rêves partis. Et donc, l'État n'a pas non plus à nous imposer des règles aussi strictes.
Pour ces autres fidèles, lors de cette messe, 250 personnes étaient présentes, alors que l'église peut en contenir 600, et les gestes barrières étaient respectés autant que possible.
Je n'excuse pas ces personnes qui n'ont pas mis de masque, mais chaque sacrement a été fait selon les règles sanitaires, avec du gel hydroalcoolique, des lingettes.
Jamais l'église n'a mis ses voisins en danger. Quand vous parlez de nombre et tout ça, regardez dans les transports. Et en plus, ici, comme c'est une église traditionnelle. Personne n'est face à l'autre.
De son côté, le diocèse de Paris s'est dit stupéfait et rappelle les règles sanitaires en vigueur, à savoir le port du masque obligatoire dès 11 ans et l'obligation d'avoir deux sièges d'écart entre les fidèles.
Nerissa Emanier, pendant ce temps, l'épidémie poursuit sa course. Il y a désormais plus de 30 000 malades du Covid dans les hôpitaux français. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis fin novembre. Après les ratés d'hier et les nombreux bugs informatiques qui ont empêché une bonne partie des élèves et des enseignants de se connecter pour leur premier cours en visio, tout est rentré dans l'ordre, d'après le ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a évoqué des attaques venues de l'étranger, mais aussi l'incendie qui avait frappé l'opérateur OVH le 10 mars dernier. Le site de Strasbourg avait pris feu, ce qui avait planté de nombreux sites internet. Une accusation un peu facile, nous dites-vous, Sophie Jousselin. Vous dites qu'OVH n'y est pour rien.
Oui, dès hier après-midi, le PDG d'OVH est riposté au ministre de l'Éducation nationale. Il expliquait dans un tweet que l'incendie des locaux de l'entreprise à Strasbourg, il y a quelques semaines, n'était en rien responsable de ces bugs. L'entreprise, prestataire technique de plusieurs de ces environnements numériques de travail, reconnaissait cependant qu'il y a bien eu des difficultés hier pour se connecter, mais ce n'est pas vraiment de sa faute. La responsabilité est plutôt à chercher du côté des gestionnaires de ces plateformes éducatives. Ils n'ont, semble-t-il, pas anticipé l'afflux de connexions qu'allait engendrer l'école à la maison et donc n'ont tout simplement pas commandé à OVH les infrastructures techniques suffisantes pour absorber ce pic de demande.
Sophie Jousselin.
Témoignage et analyse à 8h20 avec le professeur de sciences économiques Fabien Leduigou et l'expert en cybersécurité Nicolas Arpagian.
Et après le confinement qui affole les connexions, la crise qui fait exploser la bourse, le CAC 40, a fini au plus haut hier depuis juillet 2007. Plus de 6100 points, les investisseurs font le pari de la reprise, alors que la Chine et les États-Unis sont en train de repartir.
Le bilan de la crise, elle, est beaucoup moins positif sur les droits de l'homme et on en parle dans un instant sur RTL. À tout de suite.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal de Jérôme Florin. La crise du Covid a révélé et amplifié les atteintes aux droits de l'homme dans le monde.
Oui, c'est ce qui ressort du dernier rapport d'Amnesty International, dont la secrétaire générale sera l'invitée tout à l'heure de RTL. Une crise où le chacun pour soi s'est généralisé et où les libertés ont pris un sérieux coup, Christophe Decroix.
Oui, les libertés d'expression, par exemple, a souvent été mises à mal. Les personnels soignants qui dénoncent le manque de moyens sont harcelé ou intimidé. Une infirmière de Guinée équatoriale qui s'était plainte de la pénurie d'oxygène à l'hôpital s'est ainsi retrouvée devant la justice. On se souvient aussi du médecin chinois de Wuhan qui avait été inquiété pour avoir lancé l'alerte. En Amérique latine, ce sont les journalistes qui pointent du doigt l'absence de réponse face à la pandémie qui se retrouvent la cible des réseaux sociaux, parfois alimentés par les gouvernements eux-mêmes. En Algérie, le mouvement de contestation avait de lui-même cessé les grandes manifestations, mais le pouvoir en a profité pour arrêter et emprisonner ceux qui s'exprimaient sur le web. En France même, l'interdiction générale des manifestations après le confinement est jugée disproportionnée. Plus généralement, Amnesty dénonce l'attitude des pays riches. Selon l'ONG, ils ont mis en place un quasi-monopole sur l'approvisionnement des vaccins, laissant de côté les plus pauvres. En fait, la pandémie a amplifié des problèmes préexistants et souvent servi à remettre en cause des droits humains fondamentaux.
Christophe Decroix.
À 8h moins le quart, invité d'Alba Ventura sur RTL ce matin. Je vous le rappelle, Agnès Callamard, qui est donc la nouvelle secrétaire générale d'Amnesty International.
À retenir également dans l'actualité de ce mercredi, le chantier de la future mosquée de Strasbourg, qui prend un tour judiciaire, puisque la préfète du Bas-Rhin a saisi le tribunal administratif à la demande du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin s'était opposé au financement par la municipalité écologiste d'une partie de ce chantier avec une subvention de plus de 2,5 millions d'euros. Près de Marseille, l'incendie est désormais contenu sur le territoire du village d'Oriol. Près de 90 hectares sont partis en fumée. Les flammes avaient été attisées par le Mistral. Les 150 habitants évacués dans un gymnase ont pu regagner leur domicile. Des largages sont prévus dans la matinée pour prévenir une éventuelle reprise du feu.
Le gel saisit lui encore ce matin une bonne partie du pays.
Et la période est délicate pour les viticulteurs qui font tout pour sauver leur récolte. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour.
Vous vous trouvez dans l'un des plus vieux vignobles de Chablis, aux côtés d'un propriétaire qui n'a pas dormi de la nuit.
Oui, nous sommes au pied des vignes du vieux château de Chablis. Devant nous, il faut imaginer un coteau de 45% de pente, illuminé de centaines de bougies dans la nuit. Il fait moins 3 actuellement et il y a de l'humidité. Daniel Etienne Defay, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le propriétaire de ce coteau. Vous avez veillé toute la nuit.
Alors, j'ai veillé toute la nuit avec ma famille, avec mon fils, ma fille, leurs amis, puisque hier il a fait moins 4, moins 5, aujourd'hui il fait encore moins 3, comme vous le voyez il fait très froid, je vous vois trembler en face, et donc nous essayons de sauver une partie de la récolte, car il y aura déjà des dégâts. Nous avons déjà des dégâts depuis hier. Voilà.
Alors, tout autour de nous, il y a des coteaux qui sont éteints, il n'y a pas de bougies, il y a déjà des pertes.
Effectivement. Et alors, il y a effectivement des gens qui ont des pertes et qui n'auront pas de récolte, parce qu'hier, les gelées ont été très graves, à moins 5. Et puis, c'est un coût. Vous voyez, il y a 800 bougies par hectare. C'est 7,50 € la bougie et ça dure que 5-6 heures. Elles ne suffisent même pas pour aller jusqu'au petit matin, puisque ça peut geler jusqu'à 8h30-9h.
Donc un peu d'inquiétude tout de même tout autour de nous. Sur la route, effectivement, il y avait des coteaux sans bougie. Certains propriétaires ont tout simplement déjà tout perdu dans la région.
Merci Valentin Boisset. Vous restez évidemment sur place, on vous retrouvera à 8h.
Du football avec l'heure de la revanche pour le PSG.
Battu en finale l'été dernier par le Bayern, les Parisiens retrouvent les Munichois. Ce soir en quart de finale aller de Ligue des Champions, des Allemands en pleine forme, invaincus depuis 33 matchs. Rencontre à suivre dans RTL Foot spécial Ligue des Champions à partir de 20h45. Hier soir, le Real de Zidane a pris une sérieuse option pour une qualification en demi-finale après avoir battu Liverpool 3-1. Victoire aussi de Manchester City 2-1 sur le Borussia Dortmund, toujours en quart de finale aller de Ligue des Champions.
Et nous terminons avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Angers.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, le 2, le 11, le 4, le 3, le 8 et le 10. Dernière minute, le 4, Cristal du Lupin.
C'était donc le journal de Jérôme Flora. 7h12, la politique avec vous, Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Demain sera donc une proposition de loi sur la fin de vie sera donc débattue à l'Assemblée nationale. Quelle est l'importance de ce moment politique, Olivier ?
Eh bien, c'est la première fois que la question de l'euthanasie sera abordée à l'Assemblée nationale aussi directement. Il y a dans ce sujet une dimension sociétale et une dimension politique. La dimension sociétale est évidente. Toutes les familles sont confrontées, à un moment ou à un autre, à la maladie et à la fin de vie. Les Français, dans les enquêtes d'opinion, sont favorables à une évolution de la législation. Demain à l'Assemblée, des députés, pour y répondre, proposent un droit à une mort rapide et sans douleur par une assistance médicalisée pour ceux qui sont atteints d'une maladie incurable, leur infligeant des douleurs insupportables. Ce sont des médecins qui les évalueront, sauf s'ils font valoir leur clause de conscience. Vous pourriez aussi déléguer par avance ce droit de mourir à un proche si vous n'êtes plus en capacité de vous exprimer. Voilà un aperçu des questions éthiques que le débat de demain pose, et ce ne sont pas des petites questions.
Alors vous évoquiez aussi des questions d'ordre politique.
Oui, d'abord quelques élus, les Républicains, ils sont 5 et ils embarquent toute leur famille politique avec eux, vont empêcher la loi d'être adoptée. Ils ont déposé près de 2500 amendements. En retour, 270 parlementaires de tous bords ont dénoncé leur attitude dans une tribune dans le JDD, ce qui montre qu'il y a un nombre inédit de députés prêts à se mobiliser sur la fin de vie. Leurs motivations doivent quand même être décryptées car elles sont multiples. Il y a ceux qui sont militants, engagés pour la légalisation de l'euthanasie. Ils dénoncent une hypocrisie française alors que ça se pratique dans plusieurs pays européens. Il y a les opportunistes, ceux qui veulent pouvoir mettre un coup de tampon moderne et réformateur qui fait défaut à ce quinquennat. Ces députés de la majorité n'ont pas autant d'audace, m'a fait remarquer un responsable du Modem, que l'on aurait pu en attendre sur les champs économiques, sociaux ou même institutionnels. Ils se rattrapent en quelque sorte sur le sociétal. L'euthanasie, le rallongement des délais pour l'IVG et la PMA, toujours pas adoptés. L'avantage des mesures sociétales, c'est qu'elles sont poussées par une part de la société.
Donc une nouvelle loi fin de vie sera adoptée un jour ?
Alors probablement, parce que au-delà de la pression de l'opinion, ce sujet se nourrit de nos ratés et de nos lâchetés. Les soins palliatifs pour accompagner la maladie n'ont pas été développés comme le promettait la loi Claeys-Leonetti. Plus d'une vingtaine de départements n'en disposent toujours pas. Leur déploiement avait même été stoppé en 2019 avant que ne ressurgisse le débat sur la fin de vie. Les directives anticipées ne sont aussi pas suffisamment utilisées. Et puis, le débat sur l'euthanasie n'a pas été porté par Emmanuel Macron. Il n'était pas dans ses engagements de campagne. Le revoilà donc dans une niche parlementaire. L'euthanasie ne sera pas votée demain à l'Assemblée, mais le sujet ne pourra plus être évacué.
Merci beaucoup Olivier Bost et nous suivrons bien entendu ces débats dans l'hémicycle grâce à vous et à notre service politique. Dans un instant, la France va produire dès aujourd'hui des vaccins Cocorico. Avec Sophie Orange de la brigade RTL, nous allons tout vous expliquer et puis nous serons avec l'économiste Nicolas Bouzou pour évoquer cette fabrication française et surtout l'impact pour notre économie et le devenir de notre planète de cette pandémie. A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h17. Ça y est, enfin, des vaccins contre le Covid vont sortir des usines françaises. L'entreprise Delpharm, en Eure-et-Loire, qui a signé un contrat avec Pfizer-BioNTech, va produire ses premiers flacons dès aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi a-t-il fallu autant de temps? Est-ce qu'on aura plus de vaccins? La brigade RTL va tout vous expliquer. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Que va faire Delpharm? Fabriquer les vaccins?
Alors, pas exactement. Delpharm va mettre en flacon le produit. C'est vraiment la phase finale de la production, la dernière étape avant la livraison.
La production en France devait commencer il y a longtemps. Emmanuel Macron avait évoqué fin février, début mars. Pourquoi ce retard?
Alors déjà, ce n'était pas Delpharm qui devait être le premier à produire dans l'Hexagone, mais un concurrent, Recipharm, situé en Indre-et-Loire, qui a signé lui un contrat avec Moderna, l'autre vaccin ARN messager. Mm-hmm. Sauf que la substance active n'arrive pas, une sorte de goulet d'étranglement dans l'usine de Lonza en Suisse, mais la production devrait démarrer dans quelques semaines. Il a fallu aussi se fournir en flacons, en bouchons, en filtres. Autre étape incompressible, la mise aux normes, l'homologation des chaînes de production, ce qui prend forcément des semaines et des semaines. Voilà pourquoi la production démarre seulement maintenant.
Il y a d'autres sous-traitants en France?
Oui, Fareva dans l'Eure-et-Loire et les Pyrénées-Atlantiques qui attend le feu vert des autorités pour mettre en flacon le vaccin allemand CureVac. Et on n'oublie pas Sanofi. Flaconnage à venir du vaccin Janssen sur son site lyonnais et en Allemagne pour le vaccin Pfizer-BioNTech.
Bon, n'est-ce pas humiliant pour la France de se retrouver en fait sous-traitante pour des groupes qui ont mieux réussi que Sanofi ou Pasteur?
Forcément, nous n'avons aucun site de production de matières premières, voilà, de substances actives. Mais c'est un métier quand même de mettre en flacon un sérum à moins 80 degrés. Pour la France, c'est aussi une façon de participer à l'effort collectif. Oui. Et puis surtout, les producteurs ont besoin de sous-traitants pour honorer leurs engagements.
Alors, venons-en aux chiffres. Oui. Sait-on combien de doses vont sortir des usines françaises?
250 millions au total pour 2021, soit 10% des doses commandées par l'Union européenne. Pas de chiffre usine par usine, c'est confidentiel et très stratégique.
Et ces doses, elles seront pour nous, pour nos centres de vaccination français?
Indirectement, sachant que sur ces 250 millions de doses, une petite quantité sera envoyée au Royaume-Uni, selon le ministère de l'Industrie. Le reste sera réparti en Europe, toujours la même règle, en fonction de la population, donc 15% pour la France, avec une logistique simplifiée, plus de sous-traitants, plus de flacons produits permettent aux laboratoires de sécuriser leurs contrats et donc au centre d'être assuré d'avoir des doses.
Merci beaucoup Sophie Orange. On retrouve notre brigade de l'actualité juste après notre journal de 8h. Nous irons retrouver Franck Hanson du bureau RTL de Lille pour faire le point sur la situation épidémique dans les Hauts-de-France. Il est 7h19. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous-même passionné par les questions de santé et auteur du livre Homo Sanitas, apprendre et comprendre la bataille de la santé qui vient de paraître aux éditions IXO. Vous nous confirmez que c'est par la vaccination qu'on va s'en sortir?
Oui, c'est clair. On le voit déjà à l'étranger. Quand vous regardez la situation économique en Israël, vous voyez qu'elle s'améliore rapidement parce que la situation sanitaire est excellente. Même dans certains États américains, on est quand même très frappé de voir que la vaccination a déjà des effets non seulement sanitaires, mais déjà des effets économiques, y compris sur des indicateurs qui n'étaient pas complètement évidents il y a encore quelques mois. Quand vous regardez le transport aérien, par exemple, aux États-Unis, ça fonctionne très bien. Vous regardez le remplissage des restaurants dans les États qui vont mieux, ça fonctionne très bien. Donc oui, clairement, on a cette confirmation de la corrélation entre la vaccination et la situation économique. Vous voyez bien en France, d'ailleurs, où on a une campagne qui a démarré lentement et on a une économie qui vivote.
A-t-on déjà vu une pareille opération sanitaire? Après, je vais revenir aux conséquences économiques, mais à l'échelle de la planète, l'humanité qui cherche le même produit au même moment?
Non, mais en même temps, l'humanité, alors ce que je vais dire peut un peu étonner, voire choquer, mais l'humanité réussit extraordinairement bien, puisqu'on a déjà plus d'un demi-milliard de personnes qui ont été vaccinées au niveau mondial. Il faut bien voir quand même ce qu'on a fait depuis un an. C'est-à-dire qu'on a des vaccins qui sont très efficaces, dont on sait depuis cette semaine qu'ils empêchent, dans 9 cas sur 10, la transmission. On a eu une étude hier qui a montré que les vaccins ARN messager conféraient une immunité qui était longue, a priori, plusieurs années, ce qui veut dire que si on n'a pas trop de mauvaises surprises avec les variants, on ne sera pas obligé de revacciner tous les ans. Et on a déjà vacciné plus d'un demi-milliard de personnes. Enfin, franchement, c'est pas mal.
Faut-il s'inquiéter des décalages qu'on risque d'avoir entre continents? Je pense en priorité à l'Afrique.
Oui, complètement. Alors, oui, pour deux raisons. La première raison, c'est que on est dans une économie mondialisée avec beaucoup de flux de population, mais qui ont un impact sur les flux de marchandises. Parce que, par exemple, pour que la logistique fonctionne bien, il faut que les gens puissent se déplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne sera sorti de la crise. L'économie française, par exemple, elle ne sortira de la crise que lorsque tous ses partenaires commerciaux, à la fois en termes d'exportation et d'importation, seront sortis de la crise. Et donc, vous voyez que ça prendra nécessairement du temps. C'est la raison pour laquelle l'Europe, alors là, pour le coup, fait quelque chose de bien via un dispositif qui s'appelle COVAX. On donne des vaccins à des pays qui n'ont pas les moyens d'en acheter. C'est bien sur le plan moral, mais c'est efficace sur le plan économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce décalage, pour l'instant, en France, il ne se fait pas à notre profit, et en Europe d'ailleurs. Parce que, comme je vous le disais, l'économie américaine, elle est déjà en reprise. En plus, cette reprise va s'accélérer avec les plans de relance Biden. Notre économie, elle a... elle risque d'avoir 5-6 mois de décalage par rapport à l'économie américaine, ce qui n'est jamais bon.
Au-delà de ce décalage, quelle est la situation de l'Europe et de la France dans ces perspectives économiques, alors que le ministre Bruno Le Maire a annoncé sur RTL revoir à la baisse les prévisions de croissance pour 2021?
Ah oui, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on baisse les prévisions de croissance parce que la campagne vaccinale est allée plus lentement que ce qui aurait dû être. Donc je vous redonne quelques chiffres très rapidement, mais l'année dernière, on a eu une récession de l'ordre de 8%, donc une baisse de l'activité économique de 8%, tout secteur confondu. Cette année, bon, Bruno Le Maire annonce 5% de croissance, disons que ce sera maximum 5%.
D'accord.
Mais vous voyez bien que quand on perd 8% une année et qu'on reprend 5%, ça veut dire qu'en fin d'année 2021, on sera à un niveau d'activité qui sera beaucoup plus bas que celui d'avant-crise. Donc à ce rythme-là, il faut des années pour compenser la récession de l'année dernière.
Deux questions rapides avant de nous séparer, parce que tout est passionnant. Est-ce que la Chine est effectivement la grande gagnante de cette pandémie?
Non, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est une idée un peu rapide là, qui circule partout. Mais moi, je suis très impressionné par ce que font les États-Unis. Beaucoup de vaccins viennent des États-Unis. Le vaccin Moderna vient des États-Unis. Pfizer, c'est une entreprise américaine. Vous avez une campagne de vaccination qui est d'une efficacité extraordinaire aux États-Unis, où on vaccine plus d'1% de la population tous les jours. Des plans de relance extraordinairement ambitieux qui vont emmener les États-Unis au plein emploi dans un an. Voilà, je pense que là, on a enterré les États-Unis un peu vite, notamment par rapport à la Chine.
Une toute dernière question, est-ce qu'on change de civilisation et où seront les emplois de demain? Vous avez le droit à 30 secondes.
Non, on change pas de civilisation, mais on voit bien que les préoccupations sanitaires, préoccupations environnementales, c'est beaucoup plus fort qu'avant. Ça a été cristallisé, je dirais, par la crise. Et c'est vrai aussi dans le numérique, etc. Donc toutes ces mutations qu'on voyait un peu avant la crise, en fait, elles sont accélérées et on accélère les transformations, et parfois pour le meilleur, parce qu'on accélère dans l'environnement, on accélère dans la santé, c'est quand même très bien.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Je rappelle votre livre, Homo Sanitas, apprendre et comprendre la bataille de la santé. Il vient de paraître aux éditions XO et merci à Boris Pierreux qui était à vos côtés pour établir cette liaison sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, on va faire notre point météo sur le froid avec Claire Delorme. On va s'amuser avec les grosses têtes qui parlent vaccination et Anthony Matin nous fera découvrir, comme chaque jour, une pépite musicale. Restez avec nous, bonne journée à tous.
RTL Matin, Yves Calvi.
Mercredi matin, c'est l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qu'avez-vous pour nous?
Alors un peu de douceur et de beauté ce matin. On va faire un tour dans un album dont on ne parle jamais et qui pourtant gagne à être connu. Au début des années 60, l'immense arrangeur-producteur américain Quincy Jones, on lui devra bien sûr plus tard les disques cultes de Michael Jackson, s'était installé à Paris, il avait 30 ans, et il avait craqué sur une voix qui chantait « Rose blanche de Corfou ». Il s'agissait d'une chanteuse de 28 ans qui venait de Grèce et qui débutait, son nom Nana Mouskouri. Quincy Jones l'avait alors convaincu de le suivre à New York pour enregistrer tout un album jazz sous sa direction. Le disque est sorti en 1962 et on n'a presque plus jamais entendu Nana Mouskouri chanter comme ça. Notre pépite du jour se trouve en ouverture de cet étonnant album. Nana Mouskouri reprend un classique de la fin des années 40, No Moon at All, et c'est très joli.
He's afraid to bark. But what a perfect chance to bark. And there's no moon at all. Should we want atmosphere? That tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is not. told us all. Just to think we fell in love and this no moon at all.
Il a bien fait de l'emmener à New York. Hein.
Incroyable. Nana Mouskouri a délaissé ce style jazz. On peut le regretter.
Un regret, oui.
Hein, car c'est très séduisant. C'est une des pépites de son album new-yorkais The Girl From Greece Sings, c'est le titre. On trouve également dans ce disque sa reprise de What Know My Love, la version anglaise de Et Maintenant. Nana Mouskouri m'avait raconté qu'elle avait vécu des moments absolument magiques à New York grâce à Quincy Jones. Elle avait rencontré Louis Armstrong. Le lendemain, elle dînait avec Duke Ellington. Puis le jour d'après, c'était avec Miles Davis.
Bah oui.
Mais je n'appartenais pas à ce monde, dit-elle quand elle en reparle.
C'est pas mal d'être orchestré par Quincy Jones aussi. Merci Anthony, je rappelle qu'on retrouve vos pépites musicales en podcast et en replay sur l'appli RTL. À demain.
À demain.
Gardons le sourire sur RTL chaque jour avec nos grosses têtes entre 15h30 et 18h. Et ce matin, c'est Bernard Mabi qui nous parle vaccination.
Ça y est, vous êtes fait vacciner, Bernard?
J'aurai ma deuxième dose demain.
Ah, c'est pas vrai.
Mais est-ce que vous allez aller au Stade de France? Parce que c'est là-bas où ça se fait massivement.
Mais non. La seule fois où il va jouer au Stade de France, c'est pour se faire vacciner, Bernard.
Non, il pourra dire, j'ai fait le Stade de France.
T'imagines, ce serait drôle quand même que dans les stades, ils autorisent uniquement pour la vaccination qui est du public. Et les gens t'encourageraient à chaque fois. Devant le vaccin AstraZeneca. Allez, 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 allez.
Est-ce que t'as reconnu l'infirmière qui t'a piqué?
C'est un docteur et c'est mon docteur.
Ah, alors oui, il
ne me reconnaît pas, c'est très inquiétant quand même.
Il a déjà oublié qu'il avait fait la première injection.
Rendez-vous dès 15h30 avec les grosses têtes et Laurent Ruquier, François-Olivier Gisbert, Pierre Palmade, Gérard Jugnot, Michel Bernier, Pablo Mira et Isabelle Mergo. Bonjour Claire Delorme.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Est-ce que ça continue de picoter ce matin?
Oui, en effet, des gelées bien mordantes et d'ailleurs avec les sols qui peuvent être humides au nord, eh bien on a quoi? Un risque de verglas, donc prudent sur la route, surtout si vous êtes en deux roues, n'est-ce pas Yves?
Oui.
Et donc sinon, côté ciel, on peut encore trouver des averses de neige, principalement vers les frontières du Benelux, instabilité qu'on retrouvera surtout en Corse toute la journée. Avec aussi de la neige à basse altitude, des averses orageuses et puis aussi de bonnes averses tout court qui risquent de déborder en matinée vers la Côte d'Azur. Mais sinon, globalement, une très agréable journée avec de très belles pages d'éclaircies, surtout en direction du sud. Attention au vent en Méditerranée, 80 km/h, vent qui va aussi se lever vers les régions du nord, 50-60 km/h et donc ça va accentuer encore ce ressenti désagréable de froid. D'ailleurs, pour les températures, hein, pas plus de 7 à 11 degrés l'après-midi pour la moitié nord. Allez, jusqu'à 11-15 degrés pour le sud-ouest et puis les régions méditerranéennes. On va dire un tout petit 16 degrés, allez, du côté de Perpignan, soyons fous.
Merci Claire Delorme. RTL, il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 7 avril. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. À ma droite, les bleus, à ma gauche, les rouges et à la fin peut-être un champion tricolore de la coquillette. On apprend ce matin que Lustucru s'apprête à racheter Panzani. Bonjour Martial You.
Bonjour.
Ce serait un mariage de raison car les marques françaises sont un peu à la peine en ce moment.
Et oui, et c'est un peu tout le paradoxe de l'année que nous venons de vivre. On a acheté près de 6000 tonnes de pâtes l'an dernier en France. Vous vous souvenez, il y a un an, au moment du confinement, on s'était rué dans les allées des grands magasins pour faire des stocks de pâtes, 9 kilos par personne. Un niveau jamais atteint depuis 10 ans et un marché qui avait progressé de 12%. Malheureusement, ça ne profite pas forcément aux acteurs français du secteur parce que 64% des pâtes que nous mangeons viennent de l'étranger. Ce sont notamment les marques distributeurs qui animent le marché et du coup, la grande distribution tire les prix vers le bas. Autrement dit, on achète plus de coquillettes et de spaghettis, mais les acteurs historiques dégagent moins de rentabilité. Qui plus est, le prix du blé a tendance à monter, l'équation devient donc difficile à tenir entre des prix de matières premières qui montent et puis des prix en rayon qui baissent. Alors réaliser le mariage entre nos deux fleurons, Lustucru Panzani, ça permettrait de faire des économies d'échelle, les fameuses synergies. Ce qui est original dans cette histoire, c'est que c'est le petit Lustucru qui mangerait Panzani quatre fois plus gros, avec en ligne de mire un secteur qui se développe très bien et qui dégage des marges, les sauces, le bocal de bolognaise, lui, est très rentable. On parle de 600 millions quand même. Hein.
Tout est toujours dans la sauce. Merci Martial Youf.
Claire nous le disait encore il y a quelques instants, il fait froid et il va faire froid.
Oui, c'est pas bon pour les cultures. Hein. La nuit, les températures descendent à moins 5, moins 7 dans certains secteurs. Ça va durer au moins jusqu'à demain. C'est l'angoisse pour les viticulteurs et les agriculteurs en général. François Demoury cultive des céréales dans l'Aisne et son colza n'a vraiment pas bonne mine.
Les colzas avaient la tête à l'envers. Les tiges donc, qui donnaient vers le bas, les fleurs qui regardent le sol. Donc voilà, c'est pas très très bon signe en général. Ce qui est le plus avancé en céréales, c'est les orges d'hiver. Et en fait, là, en coupant les tiges en deux, surprise, à l'intérieur des tiges, en fait, il y avait de la glace. C'est jamais bon pour les végétaux en général.
Propos recueillis par Valentin Boissé. Il fait froid et ça tombe bien, les enfants sont à la maison. Théoriquement, ils pourront à nouveau suivre les cours à distance aujourd'hui. Les problèmes de bugs semblent résolus. Hier, pour le premier jour, les sites étaient inaccessibles. L'exécutif invoque des actes de malveillance venus de l'étranger. Il y a aussi l'afflux massif de connexions sur des serveurs qui n'étaient pas assez costauds. C'est désormais acté. L'État va accorder une nouvelle aide de 4 milliards d'euros à Air France, ce qui au passage va l'amener à presque 30% du capital. La contrepartie exigée par l'Union européenne, c'est l'abandon de 18 créneaux de vol à Orly, des créneaux qui sont donc cédés à la concurrence. Sur le principe, ça ne plaît pas beaucoup aux syndicats, mais il faut relativiser, explique Yves Joulin, le président de la section UNSA d'Air France.
En gros, c'est il faut que vous gagniez plus d'argent, mais on vous enlève des vols. Donc je vois pas comment on peut faire. Après 18 créneaux sur Orly, je crois qu'Air France a actuellement environ 300 créneaux. D'après ce que je peux comprendre, c'est des créneaux qui ne seraient pas utilisés par Air France actuellement, comme les Orly-Nantes, Orly-Bordeaux, Orly-Lyon. Donc je pense pas que ça soit dramatique pour l'entreprise, la perte de 18 créneaux sur 300.
Un propos recueilli par Eric Vanier. Le débat sur l'euthanasie revient demain à l'Assemblée nationale dans un climat franchement tendu. En effet, la proposition de loi fait l'objet de 3000 amendements, dont 2300 déposés par des députés LR hostiles au texte. Alors parmi eux, le député de l'Ain, Xavier Breton, qui a déposé à lui seul 400 amendements pour faire obstruction. Il est prêt à débattre, mais seulement si le gouvernement reprend la main pour un examen approfondi des mesures.
J'assume de vouloir aller au fond du dossier. Il n'y a aucun amendement répétitif, vous pouvez les regarder. Et deuxièmement, j'assume que la forme choisie d'une niche et d'expédier un débat en moins de deux heures, tel que c'est prévu en ce moment, n'est pas responsable sur un sujet aussi important. On n'expédie pas un vote en disant il y a X% des Français qui sont pour, ou alors le Parlement ne sert plus à rien.
Un propos recueilli par Jacques Seret. Les fouilles doivent reprendre aujourd'hui dans les Ardennes à la recherche du corps d'Estelle Mouzin, cette petite fille de 9 ans disparue en 2003. Les gendarmes n'ont sans doute jamais été aussi près du but car l'ex-épouse de Michel Fourniret, Monique Olivier, leur a enfin fourni des indications précises sur le lieu où la fillette a été ensevelie. Et puis il y a 10 ans, la France découvrait l'affaire Dupont de Ligonnès. Le père de famille a disparu après avoir tué sa femme et ses 4 enfants à Nantes. On a parfois évoqué un possible suicide, mais sa mère et sa sœur sont convaincues qu'il reviendra un jour. C'est ce qu'expliquait leur avocat dans l'heure du crime hier sur RTL.
Ces deux femmes ont le sentiment que la lettre qu'il a écrite est le reflet de la vérité et que quand il écrit qu'il va réapparaître un jour, il va réapparaître. Voilà ce qu'elles attendent, sa réapparition. Et ça, elles en sont convaincues.
Donc elles sont convaincues qu'il est toujours vivant aujourd'hui.
Oui.
L'avocat de la mère et de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès hier dans l'heure du crime sur RTL. Dans les Bouches-du-Rhône, l'incendie qui s'est déclaré hier sur la commune d'Auriol est désormais contenu. Les 150 personnes qui avaient dû être évacuées ont pu rentrer chez elles. Environ 90 hectares sont partis en fumée.
Le foot avec un quart de finale aller de la Ligue des Champions, c'est un vrai test pour le Paris Saint-Germain.
Oui, les Parisiens affrontent le redoutable Bayern Munich qui les a privés du titre la saison dernière. Ils devront donner le meilleur malgré plusieurs absences, notamment Verratti et Icardi. Côté allemand, il manque le buteur Lewandowski, mais le défenseur français du Bayern, Benjamin Pavard, n'est pas inquiet.
Pour eux, je pense que ça va être une revanche, comme on a gagné la finale, mais on est plutôt serein. Je pense que c'est du 50-50 face à une grande équipe. On a deux matchs à disputer et deux victoires à faire.
Le défenseur du Bayern, Benjamin Pavard, avec Philippe Sanfourche, coup d'envoi de ce match à 21h. RTL Foot spécial Ligue des Champions dès 20h45 avec Eric Silvestro, Giovanni Castaldi et l'envoyé spécial d'RTL à Munich, Nicolas Georgerot.
Nous serons fidèles au rendez-vous, comme nous le sommes au Tout Info d'Isabelle Choquet. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Vous nous faites un joli cocorico tricolore ce matin, François.
Oui, vous allez voir qu'il y a des Français qui réussissent dans la pharmacie. Le problème, c'est que ce sont des Français qui ne réussissent pas en France. Je vous raconte ça tout de suite.
À tout de suite avec l'Anglais Co.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Le classement des milliardaires du magazine Forbes a été publié hier. Il contient un petit nouveau, un Français.
Oui, il y a 42 de nos compatriotes qui détiennent au moins un milliard. Alors bon, c'est un milliard de dollars, hein, ça fait un petit peu moins en euros. Il s'agit bien sûr de patrimoine pour l'essentiel professionnel, c'est-à-dire de la valeur de la société que ces personnages ont créée ou de laquelle ils sont actionnaires. Et le nouvel arrivant, c'est Stéphane Bancel, directeur général de Moderna Therapeutics, start-up de biotechnologie dont on connaît bien le nom maintenant parce qu'elle est à l'origine d'un vaccin contre le Covid. Vaccin qui utilise la technique de l'ARN messager, c'est une voie scientifique novatrice. Bancel a pris la direction de cette entreprise de Boston, aux États-Unis, l'état du Massachusetts, il y a une dizaine d'années. Et comme il détient 8,7% du capital de l'entreprise, qui elle-même a explosé depuis un an, bah, il possède près de 4 milliards d'euros.
Bon, alors bravo Daniel. Alors c'est un Français, mais il a fait sa fortune aux États-Unis.
C'est Stéphane, hein.
Stéphane. Ah oui, pardonnez-moi, Stéphane. Bravo Stéphane.
Non, c'est vrai qu'il a fait sa fortune aux États-Unis, comme d'ailleurs l'autre réussite française du vaccin, la start-up nantaise Valneva, qui a publié hier même des résultats de tests plus qu'encourageants. La société, montée par des Français, a pourtant été financée par les Britanniques, qui ont aussi précommandé les premières doses et accepté que les essais se déroulent sur leur territoire, alors que la France n'avait pas donné suite à leur demande de financement. Et le vaccin Valneva sera fabriqué sur le territoire du Royaume-Uni, en Écosse. Là encore, initiative française, mais développement impossible en France. Mentionnons encore Pascal Souriau. Bon, il n'est pas milliardaire, mais c'est un Français qui a réussi dans la pharmacie à l'étranger. Il est à la tête d'AstraZeneca, le laboratoire anglo-suédois, et qui lui aussi a réussi à industrialiser un vaccin contre le Covid.
Bon, alors on cesse de tournicoter. Qu'est-ce qui explique que ces réussites n'aient pas pu se développer en France, dans notre pays ?
Il y a au moins deux facteurs. D'abord, l'interaction entre les chercheurs de l'université et le monde du business, chez nous, c'est laborieux, c'est difficile. Probablement plus qu'ailleurs pour des raisons culturelles. Ensuite, chez nous, il n'y a que peu de financement, et public et privé. Stéphane Bancel me racontait d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, que lors des conversations avec l'administration Trump, il avait à peine ouvert la bouche que plusieurs centaines de millions étaient disponibles pour financer le développement de son projet de vaccin, pourtant conçu avec une technologie qui n'avait jamais été éprouvée. Si vous voulez, pour réussir dans l'innovation, il faut un fou pour concevoir le produit et puis un cinglé pour le financer. Ben, ces deux-là, ils n'habitent pas en France.
Alors, ça veut dire que nous perdons notre avance industrielle en matière de pharmacie ?
Ben, elle est quand même compromise. On n'a en tout cas plus la même vitalité qu'au XXe siècle. La multinationale française Sanofi, par exemple, elle a été fondée par un patron génial. C'était dans les années 70, oui. Jean-François Dehaye, qui s'appelait. Donc, il y a 50 ans. Si on regarde à nouveau le classement Forbes, on voit qu'il y a bien d'autres milliardaires de la pharmacie qui opèrent en France. Mais là aussi, leur entreprise date d'un moment. Famille Mérieux, par exemple, oui. Descendant d'un élève de Pasteur, dont l'entreprise date de 1897. Plus de 8 milliards de dollars. Famille Beaufour, héritière du laboratoire Ipsen, fondé lui en 1929. Alors, il y a plus récent quand même, c'est Bernard Fraisse, fondateur d'un façonnier de l'industrie pharmaceutique fondé dans les années 80, Vareva, ou bien la famille Martin, qui possède un spécialiste du test et du diagnostic créé en 1987 et qui est entré lui aussi dans le classement cette année. Mais vous voyez que toutes ces entreprises, ce ne sont pas des perdreaux de l'année, elles sont au moins 35 ans d'âge.
En tout cas, je retiens cette notion, pour réussir dans l'innovation, il faut un fou et un cinglé. Merci beaucoup François Langlais. Langlais Co est à retrouver sur le site RTL.fr. On vous donne rendez-vous dès demain matin au même horaire. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Il est 7h43, votre invité ce matin.
Agnès Calmar, elle est la nouvelle secrétaire générale d'Amnesty International, une grande spécialiste des droits humains, bête noire de tous les dictateurs de la planète, mais pas que.
Soyez les bienvenus et à tout de suite pour cet entretien sur RTL.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la toute nouvelle secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Calmar.
Bonjour Agnès Calmar. C'est aujourd'hui donc que vous publiez le rapport annuel d'Amnesty International. Je rappelle qu'Amnesty, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale internationale. La nouveauté cette année du rapport, ce sont les conséquences de la pandémie du coronavirus sur les droits humains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des États qui ont profité de la situation pour, je ne sais pas, réprimer plus encore, qui ont maltraité leur population, dont certains étaient déjà très vulnérables, ou qui ont agi à leur seul profit alors qu'on est dans une coopération mondiale. C'est ça que ça veut dire ?
Exactement. Ce que ça veut dire, mais je vais juste vous reprendre sur une chose, c'est que ce n'est pas certains États, c'est la plupart des États qui ont utilisé ou instrumentalisé le Covid ou qui ont été incapables de gérer l'impact du Covid sur les populations les plus vulnérables. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Le Covid, ça a amplifié les inégalités et les discriminations qui étaient déjà sur place. Les victimes premières du Covid, on les a retrouvées parmi les populations les plus vulnérables, les personnes âgées, les groupes ethniques, les personnes qui, à la fois, étaient déjà vulnérables en raison de leur classe sociale, et qui, de plus, ont été paupérisés par les mesures qui ont été prises.
Donc, il y a une rupture supplémentaire avec les minorités.
Et pas seulement elles, les femmes. Donc, les mesures contre le Covid ont été prises sans que l'on prenne en compte les vulnérabilités des groupes, de certains groupes. Par exemple, les femmes qui sont obligées de rester à la maison avec l'être qui les torture ou qui va les tuer à un mètre d'elles. On a fait une étude sur 143 États. Là, la majorité des États ont vu une augmentation de la violence domestique. Donc ça, c'est ça. C'est l'amplification des inégalités, des discriminations. Et le deuxième chose dont vous parliez, c'est l'amplification de la répression. C'est-à-dire que de nombreux États ont instrumentalisé le Covid, soit pour asseoir leur pouvoir.
Alors lesquels ? Par exemple.
Il y en a beaucoup, donc que ce soit dans les pays du Golfe, les Philippines, l'Inde, la Chine, dans une autre mesure, mais tout aussi présente, des États en Occident qui ont cherché à proroger des états d'urgence de mois en mois, de trois mois en trois mois, et donc à normaliser les mesures exceptionnelles qui sont mises en place ou les pouvoirs exceptionnels qui sont donnés à la police. Tout ça, c'est un phénomène global.
Il y a des pays qui se sont servis du coronavirus, du Covid, pour changer les lois ?
Bien sûr, pour créer de nouvelles lois, tout à fait. Voilà, des lois sur la désinformation, des lois sur la possibilité de manifester, etc. Maintenant, certaines de ces lois peuvent être logiques dans un certain contexte, mais quand elles sont utilisées afin de mettre un terme à des droits qui sont légitimes et qui sont exprimés de façon légitime, ces lois-là ne le sont plus.
Quand vous parlez de pays qui ont usé de l'état d'urgence, vous pensez à la France ?
Qui ont instrumentalisé l'état d'urgence, je pensais à plusieurs pays. La France, comme beaucoup d'autres pays européens ou occidentaux, a prorogé des mesures d'urgence et les a mises en œuvre dans des contextes où elles n'étaient plus forcément demandées. C'est-à-dire qu'au niveau du droit, ces mesures-là doivent être proportionnées, nécessaires, réduites dans le temps. À partir du moment où elles sont utilisées en dehors de ce contexte, elles deviennent illégales. Les tribunaux français l'ont souvent mis en avant. Donc là, on a quand même un garde-fou en France qu'on n'a peut-être pas ailleurs. Mais c'est tout de même dommage qu'on en soit arrivé à demander aux tribunaux d'intervenir par rapport à ça. Voilà, ça c'est un phénomène qui est très inquiétant, je dirais.
Je lis dans votre rapport par rapport à la France qu'à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, il y a une série de mesures de lutte contre le terrorisme qui soulèvent, est-il écrit, des préoccupations en matière de droits humains, dissolution de plusieurs organisations, expulsion d'étrangers sans procéder à une évaluation des risques de torture dans leur pays d'origine. Agnès Calamar, un pays n'a pas le droit de se défendre contre le risque terroriste ?
Oh si, absolument. D'ailleurs, c'est une obligation pour le pays. Mais de nouveau, c'est une obligation qu'il faut savoir mettre en œuvre de façon nécessaire et proportionnée dans la mesure où ensuite des lois sont adoptées qui vont au-delà de ce qui est requis au niveau du droit international, de ce qui est permis au niveau du droit international, ça ne l'est plus. Pour vous donner un exemple.
La France peut déraper
bien sûr.
Sur le terrorisme
bien sûr.
À part ceux qui haïssent la France, mais vous interrogez la majorité des Français, ils demandent au gouvernement d'être plus sévère en matière de terrorisme.
Je ne sais pas. Je n'ai pas interrogé la majorité des Français. Moi, ce que j'interroge, c'est le droit international et c'est les standards universels que l'on applique à travers le monde. Des standards, au fait, qui ont été construits sur la base de l'Holocauste, donc qui ont été construits sur la base d'une expérience historique que nous ne voulions pas répéter. Quand on met maintenant en œuvre des lois qui sont liberticides dans leur esprit et dans leur mise en œuvre, on s'oriente, on dénie on nie ce que nous avons fait depuis 70 ans. Bon, je prends l'exemple de la loi de la sécurité globale qui élargit les possibilités de vidéosurveillance de la population sans démontrer la nécessité ou la proportionnalité des dispositifs. Ça, ce n'est pas permis. Quand on interdit à des citoyens de filmer des actes de violence parce que ces actes de violence sont produits par des gens en uniforme, ça non plus, ça ne fait pas partie de la logique, d'une logique de respect pour le droit des citoyens, pour les droits de la population.
J'entends bien ce que vous dites, mais... quand on interdit une organisation dans un pays parce qu'elle refuse d'adhérer aux valeurs républicaines de ce pays, comment on le traite, ça, chez Amnesty ? Parce que ça peut nous paraître assez normal, finalement, d'interdire à une association qui ne prône pas les valeurs du pays dans lequel elle est installée.
Oh ben, bien sûr, je pense qu'on fait ça beaucoup en Égypte et en Arabie Saoudite. Donc on est dans le même niveau, là. Donc l'Égypte ne supporte pas qu'on...
Vous mettez qu'on la France ne... au
mais,
même niveau.
Mais quand vous me dites que l'on interdise à des associations d'exister parce qu'elles ne prônent pas les mêmes valeurs, c'est exactement la politique que l'on suit en Arabie Saoudite, la politique que l'on suit en Chine, la politique que l'on suit en Égypte. Je ne dis pas que c'est la même chose dans la mise en œuvre. Ce que je dis, c'est que l'esprit de cette politique est dangereuse parce que ça nie la possibilité d'avoir des débats, ça nie la possibilité d'avoir des positions autres, ça nie même la possibilité de demander quelles sont ces valeurs auxquelles nous voulons que nous voulons embrasser.
Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a publié une tribune dans le journal du dimanche dans laquelle il dit que Total ne quittera pas la Birmanie en dépit du coup d'État et des exactions dont est victime la population. Il dit qu'il versera aux associations l'équivalent des taxes qu'il paye à ce pays. C'est de nature à vous satisfaire? C'est un bon deal?
Écoutez, je n'avais pas lu ses propos, donc là, je peux y répondre simplement de façon spontanée. Non, pas du tout. De toute façon, pour nous, à Amnesty International, il est très clair que la responsabilité des acteurs du secteur privé est engagée quand ils travaillent dans des situations où ils sont à même d'apporter une légitimité à des acteurs ou à des actes qui constituent en Birmanie potentiellement des actes de génocide et à l'heure actuelle une répression contre des enfants, contre les manifestants. Donc non, ce n'est pas en versant de l'argent que Total va pouvoir tout à coup se disculper de sa responsabilité. S'il apporte une légitimité, s'il apporte de l'argent, s'il apporte du pouvoir à cet État qui est en train de tuer ses citoyens, ce n'est pas en donnant de l'argent à des organisations qu'il va s'en sortir.
Avant de rejoindre Amnesty, vous étiez rapporteur spécial à l'ONU. Vous étiez monté au créneau contre l'enquête menée par la France, ou plutôt le manque, l'absence d'enquête sur l'assassinat de nos deux journalistes d'RFI au Mali. Vous dénonciez quoi ? Un jeu trouble de la part de la France ?
Ce que je dénonce, c'est l'utilisation abusive du secret défense par les militaires français, donc, qui ne permet pas au processus d'enquête et au processus judiciaire d'avancer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en plus d'entraver cette recherche de la justice et de la vérité, à l'heure actuelle, on est en train d'avoir des relations avec le commanditaire de ce crime. Maintenant, la France nie d'avoir des relations avec le commanditaire du crime, mais bon, le Mali est en train de le réhabiliter ou semblerait le réhabiliter dans le cadre de ces négociations, des négociations qui ne peuvent avoir lieu selon les experts qu'avec l'accord de la France. Tout ça, cela signifie, selon moi, qu'il y a des intérêts primordiaux qui sont décrits comme plus importants, qui vont au-delà de la justice, des intérêts qui ne sont jamais débattus, et ces intérêts vont à l'encontre de la justice.
Agnès Calamard, vous avez été menacée de mort dans l'affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste saoudien atrocement assassiné. Vous avez été insultée par le président philippin. Vous n'avez peur de rien ?
Ben non, en tout cas, c'est ce genre d'attaque de la part de personnes qui sont... qui se sentent critiqués par mes propos, ça ne m'inquiète pas. Ça fait partie de mon travail, ça fait partie du travail d'Amnesty International. C'est franchement pas aussi inquiétant que ce à quoi font face les défenseurs des droits humains, que ce soit au Honduras, en Colombie, au Mali et sûrement en Birmanie à l'heure actuelle. Donc non, moi ce qui me fait peur, c'est de lire l'angoisse dans les visages des parents qui ont perdu leurs enfants, qui cherchent leurs parents. Ce qui me fait peur, c'est quand des gens, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui cherchent la vérité, qu'on leur oppose des murs, qu'on leur oppose des obstacles à tous les coins, à toutes les étapes. C'est ça qui, ça me fait peur, ça me hérisse, ça me donne la détermination de travailler pour ces gens-là, vous voyez ?
Merci beaucoup Agnès Camard, merci infiniment et merci aussi à Benoît Gillon pour avoir assuré la technique, merci.
Merci beaucoup.
La pandémie aggrave les attaques faites aux droits de l'homme et permet de couvrir des entraves à la vérité, vient de nous dire la nouvelle secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Camard. Merci à toutes les deux, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et nous allons dans quelques instants retrouver Cyprien Sini qui va surfer avec quoi mon Cyprien ?
Oh, la difficile journée du gouvernement hier,
oui, très
entre
difficile.
Déclarations contradictoires, serveurs qui plantent et Jean-Pierre Chalençon, je peux vous dire qu'ils ont dégusté.
Jean-Pierre Chalençon ou Pierre-Jean ?
Pierre-Jean ou Jean-Pierre ?
Dans les deux,
j'ai du mal à savoir lequel est le vrai.
Continue, oui, de nous stupéfier. Allez, à tout de suite.
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
Comment qualifier la situation ? On va dire que vous surfez avec le mardi compliqué que vient de vivre le gouvernement français.
Mais oui, car hier, c'était le retour de l'école à la maison. Alors, c'est un peu la Coupe du Monde de Jean-Michel Blanquer. Hein. Oui. Il a eu un an pour tout préparer. Et franchement, jeudi dernier, sur RTL, ici même, on avait un ministre tranquille, prêt comme jamais, serein, détente.
Il y a maintenant des habitudes qui ont été prises depuis un an. Il y a des ressources qui sont très importantes, hein, que chacun peut voir. Il y a l'enseignement à distance est préparé.
Mais oui, Air Belperse, on est prêt, ultra rodé. Et en plus, Jean-Michel Blanquer nous avait annoncé l'artillerie lourde. Hein. Ils sont équipés, suréquipés même, l'éducation nationale. On allait voir ce qu'on allait voir.
Vous avez d'abord ma classe à la maison, hein, du CNED. Vous avez ce qu'on appelle l'UMNI. Vous avez aussi notre site qui s'appelle EduSchool, notre opérateur Canopé.
Canopé, oh, l'UMNI, Canopé. EduSchool, pop, pop, pop. Mais alors d'abord, qui trouve ces noms improbables, hein. Bref, du lourd quoi. Résultat, hier matin, avec Kevin, on se met devant l'ordi, et là...
Le système a bugué ce matin.
Bref, tout le monde s'est retrouvé planté.
Pouf ! CNED, EduSchool, tout ça, plus rien. Nada, heureusement qu'au ministère, pour mener l'enquête, on a... My name is Kerr, Blanquer. Pour l'investigation, Jean-Michel Blanquer. Et là, surprise.
Vous avez eu des attaques informatiques apparemment venues de l'étranger pour empêcher les serveurs de fonctionner.
Aïe, 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 des hackers russes qui tentent de piquer le devoir de maths de Kevin. Oh, mais pas que, hein. Ça a bloqué aussi car...
Ça dépend d'un opérateur privé qui a eu un incendie à Strasbourg il y a quelques temps.
Ah bah décidément, c'est pas de bol quand même. Hein. Surtout que l'opérateur privé, OVH, lui dit que le problème ne vient absolument pas de chez lui. Hein. Oui, quand ça veut pas... Ça veut vraiment pas, mais que le ministre se rassure, c'est pas le seul à avoir souffert au gouvernement. Parce qu'entre ses collègues, Gabriel Attal et Marlène Schiappa, ça a dû être sympa hier aussi, hein, à cause de l'affaire dite Chalençon. Vous savez, Chalençon, c'est le gars qui ressemble au Paul Naref de la pub CTLM.
En plus gros.
En plus gros. Oui. Qui dit d'abord sur M6...
J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants avec un certain nombre de ministres.
Avant de dire 4 jours plus tard sur BFM...
Poisson d'avril.
En fait, c'était un poisson d'avril. N'empêche que dans une vidéo, il fanfaronne en disant qu'il a invité Gabriel Attal à dîner. Et là, sur info, Marlène Schiappa...
Alors, pardon, je veux défendre mon collègue Gabriel Attal.
Ah, bonne camarade, elle veut défendre son collègue et elle dit...
Et moi, je sais de sources sûres et confirmées qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusée.
Il a eu une invitation, il a refusé l'invite. Sauf que exactement au même moment, sur France 2, Gabriel Attal déclare au même moment... Hein,
non, je ne l'ai jamais rencontré. Non, j'ai découvert cette invitation avec cette vidéo.
Il a jamais eu l'invite. Donc Gabriel Attal a refusé une invitation sans savoir qu'il avait été invité, envoyé par un gars déguisé en Paul Naref qui n'en a pas envoyé et qui voulait faire un poisson d'avril. Franchement, c'est vrai qu'elle était pas si mal notre journée comparée.
Bon, on vous retrouve ce soir avec Thomas Soto.
Absolument, ce soir.
Pour de nouvelles aventures. Ah bah oui. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, coup d'envoi pour les vaccins anti-Covid de Made in France.
Nous serons en Eure-et-Loire dès le début de ce journal. Un malade du coronavirus sur trois victimes de troubles neurologiques ou psychiatriques. Étonnante étude dévoilée ce matin. Et puis l'heure de la revanche pour le Paris Saint-Germain face au Bayern en Ligue des Champions. Ce sera ce soir.
Notre météo avec vous, Claire Delorme.
Ah, ça sera encore une matinée donc très froide avec principalement des gelées qui seront généralisées sur l'ensemble du pays. Et puis côté ciel, on pourra avoir encore quelques petites averses de neige vers les frontières belges. Instabilité aussi qu'on retrouvera en Corse avec en prime des averses orageuses, de la neige à basse altitude qui pourra un petit peu déborder vers la Côte d'Azur. Mais sinon, globalement, une très agréable journée, mais tout de même en dessous des normales de saison, pas plus de 11 degrés pour la moitié nord et aller jusqu'à 16 degrés pour la moitié sud.
RTL Matin.
En attendant de pouvoir produire son propre vaccin anti-Covid, la France va aider à produire celui des autres, et c'est déjà ça, car au moins les doses seront chez nous. Dès aujourd'hui, l'usine Delpharm, située à Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loire, démarre le conditionnement et la mise en flacon du Pfizer-BioNTech. C'est un peu l'événement sur place, Mourad Jabari.
Un immense entrepôt, oui, sans fenêtre, une grosse boîte de conserve posée quasiment au fond du jardin de Charles. Le retraité observe depuis quelques jours un balai incessant de camions frigorifiques.
Mais c'est des gros camions qui viennent. Voilà, ce genre de camions. Vous voyez, Pharma, Frigo Trans.
Donc ces camions ont une plaque d'immatriculation en Belgique qui défile devant chez vous.
Voilà. À Terre-la-Rigaud, regardez. Voilà, encore un autre. Ils chargent et ils déchargent.
Ces camions déchargent les principes actifs des vaccins venus tout droit des laboratoires Pfizer en Belgique. La production débute ici aujourd'hui et pour éviter des ralentissements à cause d'arrêts maladie, tous les salariés, comme William, manutentionnaire dans le laboratoire, ont reçu une première injection.
On a une première dose la semaine dernière. On a reçu les poches ce matin. Bah, je pense qu'on va travailler le samedi, le dimanche. Là, c'est vraiment la préparation. Là, on commence. Après, je pense que ça va être énorme. On n'en sait pas plus, même nos responsables n'en savent pas plus que nous.
La direction de Delpharm a refusé de répondre à nos questions. Pfizer-BioNTech dicte le tempo, verrouille la communication. Le maire, Patrick Ril, ne peut pas en dire plus non plus. Il peut uniquement parler des emplois supplémentaires.
Je suis un maire content parce que ça crée de nouveaux emplois. Il y en a 60 qui ont déjà été embauchés, qui sont déjà dans le circuit.
Et d'autres recrutements pourraient suivre sur ce site qui réunit plus de 300 salariés.
Mourad Jabari, trois autres industriels doivent suivre d'ici l'été. Objectif pour le gouvernement, produire 250 millions de doses d'ici la fin de l'année pour la France et l'ensemble de l'Union européenne. Des vaccins donc contre une maladie sournoise et que l'on découvre un peu plus chaque jour. Une étude nous apprend aujourd'hui, bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Une étude nous apprend qu'un malade sur trois, a développé des troubles neurologiques ou psychiatriques.
Les dossiers de 240 000 patients ont été étudiés, plus grosse publication sur le sujet dans le Lancet Psychiatrie. Conclusion, 17% souffrent d'anxiété, 14% de troubles de l'humeur. Les séquelles sont plus sévères chez ceux qui ont été hospitalisés en réanimation, avec un risque d'AVC et d'hémorragie supérieur par rapport aux malades qui ont pu rester à la maison. Au total, donc, une personne sur trois souffre dans les 6 mois qui suivent l'infection de troubles psychologiques ou neurologiques. Le Covid long, une bombe à retardement avec des conséquences dans la vie personnelle, familiale, au travail. Les médecins qui suivent ces patients le répètent, la surveillance va durer des années. Il faut accompagner, prendre en charge les malades, au minimum 500 000 en France. Des centres de référence commencent à s'organiser, mais ils sont pris d'assaut.
Sophie Orange, un mot de la pandémie à l'étranger, au Brésil, on a dépassé pour la première fois la barre des 4 000 morts quotidiens. C'est le deuxième pays le plus endeuillé derrière les États-Unis.
RTL 8h04 dans les Ardennes, la zone de recherche se resserre pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
18 ans après la disparition de la petite fille et après de nombreuses fouilles infructueuses, les enquêteurs se montrent plus confiants cette fois-ci puisque l'ex-femme de Michel Fourniret, Monique Olivier, parle, elle coopère, elle a donné des indications visiblement plus précises sur l'endroit où se trouverait le corps de la petite fille dans les Ardennes. Thomas Proutot, on peut espérer un épilogue dans les heures ou les jours qui viennent?
Alors, ce qui est certain, c'est que la justice fait tout ce qui est possible pour aller jusqu'au bout des pistes délivrées au compte-gouttes par le duo pervers et meurtrier. 3 jours de fouilles déjà la semaine dernière avec des engins de chantier pour racler le sol, un archéologue pour tenter de lire les traces anciennes et des dizaines de gendarmes avec des moyens modernes de détection. Et cela reprend cette semaine. Car cette fois, vous le disiez, Monique Olivier semble sur le chemin de la vérité. Les proches du dossier en ont la conviction. face à la juge Kéris. L'ex-femme de Fourniret a avoué la semaine dernière ce qu'elle avait toujours caché. Elle a bien accompagné le tueur en série dans leur camionnette avec la dépouille d'Estelle vers un coin de forêt où il a ensuite enterré la fillette a priori seule. C'est là que les fouilles vont se poursuivre. Un travail évidemment titanesque et incertain. Le père d'Estelle Mouzin, que nous avons pu joindre hier, rappelle aussi toutes les manipulations perverses auxquelles s'est livré le couple Fourniret depuis des années avec les enquêteurs et les familles, et dit simplement attendre et laisser la justice travailler.
Thomas Proutot, la municipalité écologiste de Strasbourg financera-t-elle le chantier de la future mosquée à hauteur de 2,5 millions d'euros ? L'affaire est désormais dans les mains de la justice, puisque la préfète du Bas-Rhin a saisi le tribunal administratif. Une autre municipalité écologiste fait beaucoup parler d'elle depuis quelques jours, celle de Poitiers, qui ne veut plus subventionner les aéroclubs locaux. Les mots de la maire Léonore Monconduit ont fait polémique. L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Elle assume son choix, mais regrette ses propos. Elle a accepté de s'en expliquer en exclusivité pour RTL, au micro de Christian Panvert.
Je suis tout à fait consciente de la maladresse de cette phrase. Cette cause mérite d'être défendue avec des termes peut-être plus adroits. Alors il faut vraiment distinguer deux types de personnes. Personnalités du gouvernement qui sont dans un écolo-bashing. Néanmoins, il y a beaucoup d'autres personnes, y compris dans mon entourage, que cette phrase a pu choquer. Parce qu'effectivement, elle place le débat sur le plan de la morale, qui n'a rien à faire là. Effectivement, moi je me suis toute ma vie engagée pour offrir des rêves aux enfants dans l'éducation populaire notamment. Donc on ne peut absolument pas me reprocher de vouloir briser les rêves des enfants. Le débat se situe ailleurs, c'est-à-dire que le vécu des enfants qui naissent aujourd'hui sera différent du vécu des enfants qui ont vécu au XXe siècle. C'est une réalité qui n'est pas de mon fait et que je cherche à combattre, justement.
Léonore Monconduit, la maire écologiste de Poitiers, avec Christian Panvert pour RTL.
Dans un instant, le football, le Paris Saint-Germain face au mur du Bayern, ça sera à suivre ce soir et en direct sur RTL.
RTL Matin.
Il est 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. En football, grosse affiche ce soir en Ligue des Champions.
Le Bayern Munich reçoit le PSG pour le match aller des quarts de finale. Il ne faudra pas jouer avec des moufles, même s'il va faire froid sur place. Les Parisiens vont tenter de prendre leur revanche après leur défaite face aux Allemands l'été dernier. Nicolas Georgerot.
Oui, comment renverser une montagne ? C'est le défi qui se dresse devant le Paris Saint-Germain. Ce Bayern, en partie affaibli, demeure la référence. Invaincu depuis 2 ans en Ligue des Champions. Des joueurs qui se trouvent les yeux fermés, qui marquent au moins 2 buts à domicile en Coupe d'Europe cette saison. Malgré le froid polaire attendu ce soir, il y aura bien des étincelles pour Lucas Hernandez, l'un des Français de l'effectif bavarois.
Ça va être un match très beau à regarder, je pense. Paris vont vouloir passer cette éliminatoire. C'est à nous d'être présents et de défendre ce titre.
La finale, il y a 8 mois, ne peut pas être totalement absente des esprits. Un épisode à ne pas ressasser, selon le capitaine Marquinhos.
Chaque match a son histoire. S'il y a des joueurs qui veulent prendre ça pour se motiver encore plus, c'est bienvenu. Mais sinon, je pense qu'on est dans un autre contexte aujourd'hui.
Gagner la bataille du milieu de terrain sans Verratti, concrétiser les quelques occasions qui se présenteront, le PSG est condamné à tout réussir pour montrer aussi que le feu d'artifice de Barcelone n'était pas une fulgurance sans lendemain.
Nicolas Georgerot, rencontre à suivre dans RTL Foot spécial Ligue des Champions. Ce sera à partir de 20h45. Hier soir, le Real de Zidane a pris une sérieuse option pour une qualification en demi-finale après avoir battu Liverpool 3-1. Victoire aussi de Manchester City 2-1 sur le Borussia Dortmund, toujours en quart de finale aller de Ligue des Champions. Lucier Voucru, le français Lustucru, s'apprête à racheter son concurrent espagnol Panzani. Le propriétaire du second serait prêt à laisser donc partir sa marque pour 600 millions d'euros. Lustucru, c'est 4% du marché de la pâte en France contre 28% pour Panzani.
On continue à prendre des nouvelles de nos vignes menacées par le gel.
Il a fait encore très froid cette nuit pour RTL. Valentin Boisset, vous baladez du côté de Chablis. Alors dans le journal de 7h, Valentin, vous nous disiez que des parcelles avaient déjà été perdu. Le jour se lève et maintenant les viticulteurs vont faire le bilan dans le détail.
Oui, le jour s'est levé sur Chablis. Le propriétaire commence à inspecter les pieds de vigne. Alors un premier bilan peut-être sur celui-ci.
Oui, alors là, ce bourgeon-là par exemple est brun, presque noir. Eh bien ça c'est la gelée d'hier. Et là, celui-là, eh bien il est passé à côté. Il est encore un petit peu vert. On peut dire qu'il est sauvé. Mais enfin, voilà, sur 8 bourgeons, il y en a quand même 7 qui sont grillés. Et je dois reconnaître que là, évidemment, il y a une chute de récolte potentielle qui est énorme.
Les bougies qu'on voit un peu partout vont rester encore un petit peu allumées combien de temps ?
Là, le jour se lève. On va dire qu'elles vont rester encore une demi-heure. une heure peut-être. En fait, c'est la température extérieure qui va conditionner l'extinction du feu de la bougie.
Et on remet ça ce soir.
Et on remet ça malheureusement ce soir d'après les pronostics que RTL a bien voulu nous confier.
Donc environ 40% des récoltes sur ce domaine de Chablis ont péri, sachant que la prochaine nuit s'annonce aussi compliquée que celle qui vient de s'écouler.
Valentin Boisset, on souhaite bon courage à ce propriétaire de vignes à Chablis.
Extrêmement sympathique. On termine en apothéose avec l'histoire du jour.
Champion du champignon dans le Tarn, un automobiliste visiblement adepte de la persévérance a été contrôlé en excès de vitesse à 3 reprises au même endroit le même jour. C'était dimanche. Bilan 8 points en moins sur le permis, ça fait quand même beaucoup. Et plus de 400 euros d'amende.
Belle persistance, comme vous, puisqu'on vous retrouve à 9h pour le point de l'information, Jérôme Flore.
Absolument.
A tout à l'heure.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h12. Depuis le début de la semaine, nous consacrons notre brigade de l'actualité aux chiffres de l'épidémie, région par région. Prenons la direction des Hauts-de-France, où nous retrouvons Franck Hanson depuis notre bureau de Lille. Bonjour Franck.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Est-ce que les mesures de restriction qui ont démarré mi-février, je le rappelle à Dunkerque, puis dans le Pas-de-Calais, ont eu des effets sur la circulation du virus ?
Eh bien, cela commence tout doucement à payer, hein, mais le taux d'incidence dans la région, sur une légère pente descendante, reste à un niveau inquiétant, moins de 500 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui, contre 518 une semaine plus tôt. Dans le secteur de Dunkerque, les chiffres ont été divisés par 2,5 après avoir dépassé les 1000. Alors, il n'y a plus de cluster, mais un retour à une triste normalité, confie un médecin. Dans le Pas-de-Calais, le taux d'incidence est de 495, en ralentissement également. Le pic pourrait avoir été atteint. Ce qui reste inquiétant, par contre, c'est la circulation du virus dans certains territoires ruraux, comme dans la Thiérache Picarde ou la zone de Solesmes, près de Valenciennes. Plus près de la région parisienne, les chiffres flambent dans l'Oise, avec un taux d'incidence à plus de 900 à Creil, quasiment autant à Beauvais. Une dégradation sanitaire qui inquiète d'ailleurs les autorités.
Ouais, les chiffres sont très impressionnants. Dans les hôpitaux, la tension reste forte.
Oui, plus que jamais. Pas encore d'éclaircie en vue pour les 15 prochains jours, prévoit le docteur Goldstein, le patron des urgences à Lille. Tous les jours, de nouveaux malades à accueillir et un manque de place dans tous les services. Ce week-end, dans les hôpitaux nordistes, selon ce médecin, ce n'était pas la chasse aux œufs, mais la chasse aux lits disponibles. Le taux d'occupation en réanimation dépasse les 150% dans les Hauts-de-France, avec des patients toujours plus jeunes. Le plus dur, confient les soignants, c'est de trouver des bras, des ressources humaines, plus que des machines. Du coup, on réaffecte le personnel. Plus de 40% des opérations médicales sont déprogrammées, par exemple, à l'hôpital d'Amiens. Et malheureusement, le nombre de décès ne fléchit pas.
Ça veut dire, Franck, que les patients sont encore transférés ailleurs ?
Oui, notamment vers la Bretagne, moins sévèrement touchée. Un patient de Creil doit d'ailleurs être transféré aujourd'hui vers Brest en avion. Il n'y a plus d'évacuation vers la Belgique. Par contre, en un mois, une cinquantaine de malades nordistes ont été transférés vers d'autres territoires.
En termes de vaccination, est-ce que ça avance ?
Alors, on a encore franchi une étape hier avec l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination de grande ampleur au Zénith de Lille. Objectif 650 injections par jour au début, puis jusqu'à 1300 par jour selon les approvisionnements. Martine Aubry croise les doigts. Le vélodrome de Roubaix est aussi transformé en vaccinodrome en complément des 159 centres de la région. À ce jour, plus d'1 150 000 piqûres ont été réalisées, soit 15% des habitants qui ont reçu une première injection. 4,2% seulement ont bénéficié des deux doses. C'est moins qu'en Bretagne ou en PACA. Et la méfiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca, on en a parlé ce week-end sur le littoral, a permis d'ouvrir de nouveaux créneaux pour des populations qui n'avaient pas de rendez-vous.
Merci beaucoup Franck Hanson de notre bureau RTL de Lille. Dans un instant, notre expert en fausse information, Jean-Mathieu Pernin, va nous parler du vaccin russe, le Sputnik V, V comme Vladimir. A tout de suite.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h17, regardons ce qui se passe du côté des intox, des fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, le vaccin russe n'est-il toujours pas autorisé en Europe pour des raisons politiques ?
Et c'est vrai qu'on en parlait beaucoup à un moment du vaccin russe, vous en souvenez, au mois de janvier, c'était vraiment le sauveur. Et là, il y a quand même un petit point de côté dans la course au vaccin qui venait du froid. Et sur les réseaux sociaux, nombreux dénoncent désormais une démarche politique de la part de l'Union Européenne. Les Européens ont peur du Sputnik car il est plus efficace que leur poison. Dès que c'est russe, on ne veut pas. Voilà, bon, un exemple d'interrogation numérique que l'on croise souvent. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas. En effet, la France fait partie, on le sait maintenant, d'un processus européen pour le vaccin. Tous les sérums injectés dans notre pays sont validés par l'EMA, l'Agence du médicament européen, puis par la Haute Autorité de Santé. Le Sputnik V fait l'objet d'une procédure, donc par l'EMA, depuis le 4 mars, et ça prend du temps, comme Pfizer BioNTech, Moderna ou AstraZeneca ont pris du temps pour être accrédités. Plus d'un mois pour Pfizer et Moderna, 4 mois pour AstraZeneca. Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, évoque le fin juin pour le Spoutnik, donc patientons.
Alors pourtant, quand on parle du vaccin russe, la politique n'est jamais très loin.
Ben oui, à cause de la relation entre l'Europe et la Russie qui sont un poil tendues et des considérations autres que sanitaires qui rentrent en compte. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, évoquait le 26 mars Spoutnik V comme, je cite, un moyen de propagande et de diplomatie agressive. De son côté, le vaccin russe, lui, alors n'est pas autorisé en Europe, mais il fait sa publicité sur les réseaux sociaux pour, en fait, séduire l'opinion publique. Tous les vaccins le font, mais du côté russe, c'est assez offensif. Ainsi, par exemple, sur Instagram, le compte Spoutnik V propose de gagner un voyage en Russie si vous envoyez une photo de vous faisant le V de la victoire. Voilà. Quelques clichés plus loin, c'est carrément une photo de Vladimir Poutine avec le V de la victoire et cette phrase « Le président russe se fait vacciner contre le Covid ». Ouais. On peut également y voir le réalisateur Oliver Stone, un soutien de Vladimir Poutine. Des comptes sur Facebook critiquent Pfizer et vantent le Spoutnik. Bref, une véritable offensive numérique où se mêlent le sanitaire et le politique pour le monde d'après Covid.
Bon, alors, une question, le vaccin russe sera-t-il produit en France, oui ou non ?
Alors, le Spoutnik V est efficace, on le sait, mais à peu de moyens de production en Russie. Début mars, il y a un fonds de souverain russe qui annonçait qu'une usine française allait produire du Spoutnik, information démentie par le ministère de l'économie. Seule l'Italie, pour l'instant, a accepté d'en produire à partir de juillet. D'ici là, nous aurons le temps de nous poser la question, pourquoi l'Europe n'autorise pas encore les vaccins chinois ? C'est presque sans fin.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
8h20, on retrouve Michel Simès. Bonjour, cher Michel.
Bonjour, Yves.
Alors, s'il fallait compter sur vous pour annoncer des bonnes nouvelles, en tout cas, côté narine, c'est raté. Hein.
Oui, désolé, mais un peu comme tous les ans à la même période, je vais être obligé de rappeler aux allergiques qu'ils sont allergiques. Voilà, alors ça paraît idiot, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de Français qui s'inquiètent tous les ans, au mois d'avril, parce qu'ils se mettent à éternuer, à moucher, que leur nez est bouché et qu'ils se disent qu'ils ont attrapé un rhume. Alors c'est déjà vrai en temps normal, mais en ce moment, avec l'obsession de ne pas attraper le Covid, oui, je ne vous décris pas les angoisses. D'ailleurs, il est assez drôle, si je peux m'exprimer ainsi, de voir les réactions quand quelqu'un se met à éternuer à côté de vous, surtout si cette personne le fait plusieurs fois de suite.
Oui, moi ça ne me plaît pas. Bon, pourtant le responsable, c'est pas le coronavirus, mais la plupart du temps, le pollen.
Et oui, et plus précisément, du moins en ce moment, le pollen de bouleau. Il y en a beaucoup et tous les allergiques à ce pollen doivent en ressentir les effets. Ça a été le cas quand il a fait chaud, un petit peu moins en ce moment avec les températures qui baissent, mais ça va revenir. Je rappelle aux anciens allergiques, et j'informe ceux qui rentreraient dans l'équipe, que l'allergie au pollen se manifeste donc par les symptômes déjà cités, éternuement en général plusieurs fois de suite, le nez qui coule comme un robinet avec un liquide clair, puis qui va se boucher et les yeux qui démangent et qu'il ne faut surtout pas frotter sous peine de symptômes encore plus gênants, genre un grain de sable dans les yeux, c'est la conjonctivite allergique.
Une fois qu'on se sait en pleine crise, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, on ouvre son armoire à pharmacie et on prend ce qu'on prenait l'an dernier. Voilà, il doit bien rester quelques comprimés d'antihistaminiques. Et si on n'en a pas assez, on retourne voir son médecin. Et si les délais sont trop longs, on fait du charme à son pharmacien avec l'ordonnance de l'an dernier pour lui montrer qu'on est bien allergique. Il y a même des antihistaminiques que l'on peut avoir sans ordonnance. Mais comme toujours, le mieux, c'est de prévenir.
Alors, comment faire pour prévenir la pollinisation ?
Eh bien, ça, évidemment, on ne peut pas. Voilà. Surtout qu'avec le réchauffement climatique, la pollinisation s'étend de plus en plus dans l'année. En revanche, il existe quelques trucs pour limiter les dégâts. Vous avez entendu qu'on recommande d'aérer les appartements en ce moment à cause du Covid. Oui. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire, sauf que vous allez le faire avant 10h et après 17-18h, parce qu'entre les deux, c'est là qu'il y a le plus de pollen dans l'air.
Ah, c'est intéressant ça.
Bah heureusement que je fais des trucs intéressants de temps en temps. Ensuite, quand vous rentrez chez vous ou avant de vous coucher, vous vous rincez les cheveux pour éliminer tous les pollens qui s'y sont déposés dans la journée. Sinon, c'est sur l'oreiller que vous allez les mettre et c'est le nez bouché le matin au réveil.
Surtout Pierre-Jean Chalençon.
Voilà,
oui, cheveux importante.
Absolument, entre autres. Pour les chauves, c'est un peu tranquille. Dernière chose qui concerne les enfants. S'ils sont allergiques, il faut leur donner un antihistaminique quasi systématiquement tous les jours si on est dans une période de forte pollinisation. Et si votre enfant se met à tousser, qu'il est un peu gêné pour respirer et qu'il a les autres symptômes de l'allergie, écoutez-le expirer. Parfois, vous pouvez entendre un petit sifflement. Que ce soit le cas ou pas, méfiez-vous de la petite crise d'asthme. Il vaut mieux avoir un petit spray qui dilate les bronches à portée de main. Mais bien sûr, demandez l'avis de votre médecin.
Les excellents conseils du bon docteur Simès. À demain, cher Michel.
À demain.
Dans un instant, c'est le grand jour pour l'école à distance. Hein. Ça a commencé hier, mais un peu difficilement. On va en parler avec l'expert en cybersécurité Nicolas Arpagian et le professeur de lycée Fabien Leduigou dans quelques secondes sur RTL. Restez avec nous.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
Il est 8h26, je salue Fabien Leduigou qui est professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée des Yvelines. Bonjour monsieur Leduigou.
Bonjour.
Et je salue aussi Nicolas Arpagian, expert en sécurité et auteur de la cybersécurité aux Presses universitaires de France. Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Monsieur Leduigou, je commence avec vous si vous le voulez bien. Expliquez-nous ce que vous avez vécu hier matin en vous connectant sur les outils d'enseignement à distance. Quid de vos élèves et de vos collègues d'ailleurs?
Alors, moi, je n'avais cours que l'après-midi, oui. Mais bon, j'avais anticipé, évidemment. Donc, dès 8h du matin, je me suis connecté sur l'ENT, donc l'environnement numérique qui est proposé par la région Île-de-France. Oui. Et bon, dès le départ, en fait, ça ramait. Donc, voilà, donc la page n'arrivait pas à s'actualiser. Donc, j'ai essayé pendant une heure. Et puis, au bout d'un moment, un message est apparu nous disant que, suite à les multiples connexions, en fait, il y avait un système de quotas qui était alloué.
Oui.
Et donc, quand il y avait trop de personnes connectées, il y avait professeurs, les autres étaient en attente.
Alors que vous aviez anticipé, je vous ai bien compris. Hein.
Oui, moi j'avais cours que l'après-midi à 15h. Et donc, oui. Du coup, je voulais déjà envoyer le lien de mes visios à mes élèves. Ils étaient prévenus, hein, parce que dès la semaine dernière, je leur avais dit qu'on se retrouvait en visio. Et puis, impossible de communiquer avec eux pour leur envoyer le lien de ma visio.
Vous avez pu échanger avec vos confrères et consoeurs pour savoir comment ça se passait pour eux?
Ah bah évidemment, moi au bout d'une heure, hein, donc de 8h à 9h, je me suis connecté une bonne dizaine de fois. J'ai appelé du coup mes collègues qui m'ont dit on est dans la même situation. Et en contactant des collègues d'autres établissements scolaires, bon là on s'est rendu compte que c'était en fait toute l'Île-de-France qui était concernée au moins.
Oui. Comment qualifiez-vous la situation par rapport à l'an passé quand ces outils ont été déployés en mars 2020?
Bah écoutez, c'est exactement la même situation, puisque en mars dernier, la première journée de la mise en place de l'école à distance, on a eu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu se connecter à l'ENT et au logiciel en fait qui était fourni par notre employeur.
Oui.
Et donc bah, on avait l'impression de revivre hier la même journée en fait qu'il y a un an.
Mais quel bilan faites-vous de la situation? On a sous-estimé nos capacités, on est incapable de mener une opération de ce type. Au bout du compte, quelle est votre analyse?
Alors moi je pense qu'en fait on n'était pas du tout préparé, c'est-à-dire que le ministre hein, depuis le début de l'année a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas fermer les écoles,
oui.
Et du coup il n'a pas anticipé et préparé cette situation où en fait on a été dans l'obligation de fermer les écoles vu la situation sanitaire, et je pense qu'on n'était tout simplement pas prêt. Alors là, bon, tout le monde se renvoie un petit peu la balle,
oui.
Parce que nous, l'ENT, c'est donc la région Île-de-France qui propose cette plateforme numérique. Donc on a l'impression que le ministère se défausse un petit peu sur les collectivités locales, mais en fait le ministère a aussi une responsabilité là-dedans. Il aurait dû évidemment prévoir, anticiper cette situation.
Alors vous restez avec nous Fabien Leduigou, je me tourne vers Nicolas Arpagian qui est expert en sécurité. Le ministre de l'Éducation nationale a évoqué hier, Nicolas Arpagian, des attaques et des actes malveillants en provenance de l'étranger. Est-ce possible qu'on ait envie de viser, je dirais, l'éducation nationale? Ça peut
Alors,
surprendre.
Déjà, effectivement, d'ailleurs cette invocation était déjà intervenue l'année dernière, oui. Exactement dans les mêmes circonstances. Il avait à l'époque désigné la Russie. Là, en l'occurrence, alors, est-ce que c'est faisable techniquement? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle du déni de service. C'est un mode opératoire qui est d'habitude utilisé soit à des fins idéologiques. Vous voulez, par exemple, bloquer un média, vous voulez bloquer une administration, une entreprise. Donc, vous allez saturer son site Internet avec des connexions simultanées. Donc, ça va le rendre indisponible aux internautes légitimes. Donc, ça existe, oui. Bien sûr. Ou également, ça peut se faire de manière crapuleuse, avec notamment des objets de rançon, d'extorsion, en disant « si vous ne payez pas, je ne libérerai pas votre site ». Dans le cas de l'éducation nationale, on voit pas bien, il n'y a pas eu de revendication idéologique et il n'y a pas eu, a priori, de monétisation, c'est-à-dire de réclamation de rançon. Donc, effectivement, ça paraît surprenant parce qu'en général, quand on utilise cette arme-là, soit on en fait une opération de gloriole ou en tout cas d'agit-propre, ou au contraire, on en fait une opération crapuleuse. Il n'y a pas eu de revendication, il n'y a pas eu même de satisfaction, même si ce sont des attaques qui sont accessible techniquement et accessible financièrement.
Pardonnez-moi, mais c'est assez grave parce qu'en l'occurrence, il y a la parole d'un ministre qui est en jeu pour l'instant, ou en tout cas des informations qu'on a bien voulu lui transmettre. Est-ce que l'on saura, est-ce que l'on va pouvoir établir si effectivement, oui ou non, hier, on va dire les serveurs, j'emploie des termes simples, hein, de l'éducation nationale ont été attaqués pour perturber cette journée de travail.
L'administration a annoncé qu'elle a allait porter plainte. Il s'avère que le code pénal contient un article 323-2 qui est totalement consacré à cela, puisque il sanctionne l'entrave à un système d'information. Donc on est exactement dans cette définition. À titre indicatif,
pardonnez-moi, donc on ne peut pas confondre ce que j'appellerais un bug et une attaque en tant que telle.
Ah, s'il qualifie d'attaque, c'est-à-dire que quelqu'un a saturé les systèmes. Alors, voilà. Il y a différents types de saturation. On va solliciter des ordinateurs préalablement infectés et on va leur donner l'ordre à distance de se connecter au même site internet. Donc évidemment, comme l'évoquait votre invité, il sature parce qu'il n'est pas fait forcément pour recevoir cette surcharge-là. Oui. Autre possibilité, qui est une option qui est d'ailleurs pour passer sous les écrans radars une attaque, alors qu'on appelle slow loris, enfin qui est un mode, c'est-à-dire qu'on va faire plein de requêtes très lentes, c'est-à-dire un peu comme quelqu'un qui vous reprendrait par le bras en disant non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Oui. Et à la fin, le site sature parce qu'il est sursollicité par des requêtes très lentes. Il y a une incrimination pénale, donc s'il y a eu effectivement dépôt de plainte, on sait qualifier, on sait identifier ce qu'est un comportement malveillant de saturation de site internet. Donc si une enquête est menée, on pourra avoir
une réponse.
Éléments, en tout cas, on pourra déterminer des éléments techniques. Juste à titre indicatif, le législateur avait même prévu que la peine est aggravée s'il s'agit d'un serveur de l'État qui est ainsi entravé. Donc, effectivement,
par exemple, attaquer des hôpitaux.
Un serveur de l'État, d'une administration publique. Voilà. Donc là, on est sur 7 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour un système de l'État entravé. Donc si une plainte a été effectivement ou va l'être incessamment, on peut espérer que la procédure éclairera les circonstances.
Pardonnez-moi, mais est-ce qu'on sait si on a déjà attaqué les impôts ? C'est idiot comme question, mais ça me fait rire.
Général, on a eu des cas de bugs au moment où vous aviez, vous savez, l'heure ultime de paiement, au moment où on a initié les premiers impôts en ligne. Oui. Mais vraisemblablement, c'était plus là aussi des saturations liées à la connexion simultanée.
Au-delà des attaques, est-ce que l'on pouvait, selon vous, absorber une telle quantité de connexions hier, c'est-à-dire tout simplement des élèves qui veulent suivre leur cours?
Ah oui, bien sûr. Il y a aucun obstacle. On sait faire. Bien sûr, absolument. Surtout si c'est anticipé. L'avantage d'avoir un cours qui démarre à 9h le matin avec un jour de la semaine. D'ailleurs, cette journée de mercredi va être une période un peu de entre deux. D'ailleurs, parce que a priori, il y a moins d'élèves qui travaillent le mercredi. Mais l'épreuve du feu, ça va être demain jeudi, parce que là, on va revenir en pleine portée pédagogique.
Mais excusez-moi. 500 000 élèves connectés sur 12 millions, on ne peut pas dire quand même que ça soit faramineux.
En fait, ça mériterait quand même l'investigation pour comprendre pourquoi ce dimensionnement, qui était pourtant prévisible, manifestement, alors que investir pour augmenter la capacité de traitement, votre invité l'a dit, en fait, à un moment, on a mis un seuil en disant au-delà de cette limite, effectivement, c'est bloqué. Bon, évidemment, ce seuil, cette configuration, elle peut être augmentée, surtout si on connaît la volumétrie auquel on peut s'attendre.
Je me tourne à nouveau vers vous, Fabien Leduigou, qui est professeur de sciences économiques. Est-ce que vous craignez du décrochage lié à ce qui s'est passé hier et d'une façon plus générale en ce moment ?
Alors le risque de décrochage là, il est quand même plus faible qu'en mars dernier, dans le sens où là, à la fin de la semaine, c'est les vacances, hein, puisque les vacances ont été avancées. Non, le risque de décrochage, il n'est pas si important que ça, mais bon là, voilà, il faut quand même qu'on voit nos élèves une dernière fois, qu'on discute avec eux, qu'on leur donne des consignes. Ce qui va être important, c'est après les vacances, au retour de vacances, et là... le ministère n'aura aucune excuse si les outils numériques à leur disposition ne sont pas efficaces.
Vous estimez que vous aurez réussi à sauver cette année scolaire ?
Ouf, c'est un grand mot, sauver. Cette année sera, comme celle de l'an passé d'ailleurs, exceptionnelle. On sait très bien que les programmes dans la très grande majorité des classes ne sont pas finis, notamment en lycée, on est passé en demi-groupe. Donc, de la sauver, non, mais disons qu'on a... On a réussi à faire avec ce qu'on avait.
Oui.
Voilà. Donc on a réussi à tenir les élèves, à leur faire des apprentissages. Je pense que les enseignants ont surtout insisté sur les méthodologies et un peu moins sur les contenus, puisqu'évidemment, il faut les préparer pour le post-bac, hein, pour les lycées. Moi, je suis enseignant en lycée. Oui. Donc voilà. Donc on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Bon, je ne vous cache pas qu'on n'a pas été aidé par notre ministère.
J'ai bien compris. Merci beaucoup Fabien Leduigou. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée des Yvelines. Vous nous donnez donc rendez-vous demain, j'ai bien compris, Nicolas Arpagian.
Ce sera l'épreuve du feu.
Si la boutique tourne en quelque sorte. Merci infiniment. Expert en sécurité et auteur de la cybersécurité aux presses universitaires de France. Bonne journée à tous les deux. Merci d'avoir pris la parole et nous avoir éclairés sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, notre météo à 7 jours avec Claire Delorme. A tout de suite, Claire.
A tout de suite.
Merci.
Dans 30 minutes. minutes, laissez-vous tenter sur RTL.
Bonjour, c'est Steven Bellery. Il s'appelle Noé Préchoff, il a 26 ans, il est bruxellois et secoue la chanson française. Son premier album vient de paraître, nommé aux Victoires de la Musique en février dernier. Il incarne un renouveau engagé, très écrit et à contre-courant. Portrait en musique, à 9h dans Laissez-vous tenter.
Laissez-vous tenter sur RTL.
RTL Matin.
Il est 8h38. C'est le moment de notre météo à 7 jours, Claire Delorme. Alors, on va commencer déjà par ce qui se passe aujourd'hui.
Exactement.
Allons-y gentiment.
Alors, le froid, il sera encore de rigueur, bah, surtout ce matin, comme vous avez pu le constater au lever du jour, avec donc des gelées quasi généralisées dans l'ensemble, et puis même la Méditerranée, avec un petit degré, hein, c'est nougat glacé du côté de Montélimar. Oui. Et donc, sinon, eh bien, côté ciel, on va encore retrouver quelques averses neigeuses, principalement vers les frontières belges, mais bon, ça va très vite s'estomper dans le courant de l'après-midi. Par contre, de la neige, on en attend. Cette fois-ci en Corse à basse altitude à partir de 500 mètres. Et puis sinon, en prime, on aura aussi des averses orageuses. Ça pourra un petit peu déborder en matinée vers la Côte d'Azur. Mais sinon, globalement, une très belle journée avec de très belles plages d'éclaircies, surtout en direction du sud-ouest. Bon, on aura quand même un petit peu de vent encore en Méditerranée. Il va s'essouffler dans le courant de l'après-midi. Mais ça sera surtout encore un vent de nord-ouest qui va s'installer principalement au niveau des régions du nord. Et puis côté température, hein, on peut tirer une croix dessus. Hein, ça sera guère très chaud, hein. On sera en dessous des normales de saison jusqu'à 8 degrés, entre 7 et 11 degrés donc sur la moitié nord, 10 degrés à Paris par exemple, 11 à 15 degrés sur le sud-ouest et les régions méditerranéennes.
Donc la fraîcheur persiste pour l'instant.
Alors elle persiste, comme... elle va persister aussi donc pour demain, donc ça sera exactement le même type de temps, une journée très calme, très ensoleillée, mais encore bien fraîche. Par contre, changement d'ambiance à partir de vendredi. Donc on aura une remontée progressive du mercure, mais au prix donc d'un changement de masse d'air qui va aussi apporter quoi ? Eh bien, une nouvelle perturbation, avec de l'instabilité, qui va perdurer au moins jusqu'à dimanche. Donc, pas de regret, hein, donc, que ça sera un bon week-end à la maison, comme ça, on est content. Et, mais par contre, ça sera aussi que temporaire, puisqu'à partir de la semaine prochaine, à nouveau, on rebascule vers un flux nord qui va à nouveau apporter de la fraîcheur. Les conditions seront beaucoup plus calmes, beaucoup plus sèches. Mais bon, côté température, il va falloir encore patienter pour le retour de la douceur, je le crains.
Bon, ça sera douci pour le week-end, mais on ne sortira pas de la maison, parce qu'en gros, il va pleuvoir.
Oui, bah, c'est exactement
ça. Bien d'accord, c'est ce que j'avais compris. Merci infiniment, Claire Delorme. Bonne journée à vous et à demain.
Merci beaucoup, Yves.
Vous êtes comme ça.
Et aujourd'hui, nous vous proposons un voyage dans le passé, dans Vous êtes comme ça, sur les traces d'Antoine Suas, un homme né au Pays Basque, à Arkang, en 1885. Lors de la Première Guerre mondiale, il est fait prisonnier par l'armée allemande, comme tant d'autres soldats français d'ailleurs. Mais plus d'un siècle plus tard, son souvenir réapparaît grâce à une passionnée de l'histoire du Pays Basque qui a retrouvé une lettre, mais aussi des enregistrements sonores d'époque. Bonjour Denis Grandjoux.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ces documents ont été remis il y a quelques mois par l'Allemagne à la France et ils sont exceptionnels.
Oui, un grand coup de chapeau d'abord à Maïté Déliard, chargée de mission à l'Institut culturel basque. Grâce à elle, nous pouvons revenir sur ce programme mené par la Commission phonographique royale prussienne. Une quarantaine de scientifiques ont participé entre 1915 et 1918 à cette étude dans le but de recenser toutes les langues du monde. Ça paraît fou.
Ce sont des voix surgies de nulle part. Ce sont les porte-paroles de ceux qui ont participé à la guerre.
Ils ont tout de même recensé 250 langues et dialectes dans une centaine de camps de prisonniers répartis dans toute l'Allemagne. Et c'est dans un de ces camps que se trouvait Antoine, le 1er août 1917, quand un technicien allemand est venu l'enregistrer, d'abord avec une chanson « Tendez l'oreille, 104 ans nous séparent de cette prise de son ». Ce sont des chants enregistrés dans un camp de prisonniers.
Tout à fait, tout à fait.
C'est saisissant.
Tout à fait.
D'imaginer ces prisonniers qui chantent en basque.
Et d'ailleurs, un des membres de la commission s'était rendu compte qu'il y avait une communauté de basques qui chantait tout le temps. Les chants, on les a là, on chante et... le terme me vient en basque, biotsaltchagari, c'est-à-dire que quand vous chantez, ça vous porte, ça donne une énergie positive.
Et ce 1er août 1917, Antoine Suas a chanté sans la moindre fausse note.
Mais Antoine Suas n'a pas seulement chanté, Denis, il a aussi été enregistré en parlant, en lisant une lettre, et là toujours en basque.
Oui, c'est vrai, Antoine lit une lettre, là encore sans aucun accroc, une lettre de 3 pages qu'il a écrite lui-même avant l'enregistrement. «
ezaguneta bizkide orotari berezia, eskora zoatide, ene gogo, sentimendu, eta izaitze guzia.
Je suis basque d'origine. Et quoique je sois loin du pays, de la famille, des parents, de tous les amis et connaissances séparés, ma pensée, mon sentiment et tout mon être sont basques.
On comprend donc en écoutant cela l'émotion de son petit-fils, Michel, et de sa femme, Mado, qui ont découvert cette histoire incroyable lorsque Maïté les a contactés.
Alors ça, c'est sûr, on est tombé des nues, quoi. La surgit du temps.
Mais c'est magnifique, et puis l'écriture qu'il avait, moi j'en reviens pas, quoi. C'est formidable, quoi, l'écriture qu'il avait, une jolie écriture.
Il raconte tout de A jusqu'à Z, au départ, la captivité, son parcours en Allemagne.
Quand on l'entend chanter, c'est formidable, quoi.
Ça grésille, tout ça, mais... Il y a un cœur qui bat, quoi.
Désormais, Michel et Mado se sont fixés un objectif, retrouver la tombe d'Antoine, quelque part dans un cimetière du Pays Basque, pour honorer cet homme, mort en 1946, à 62 ans, sans jamais, jamais avoir raconté son histoire.
Incroyable document de plus d'un siècle. Merci beaucoup Denis Grandjou pour ce voyage dans le temps. Un reportage à retrouver sur notre application RTL et sur votre smartphone. Et dans quelques instants, c'est avec Laurent Gérard et toute son équipe que nous avons rendez-vous. Restez avec vous, avec nous, avec vous aussi d'ailleurs si ça vous fait plaisir. Ça, c'est mieux pour votre équilibre général. Il est 8h44, passez une très bonne journée à l'écoute d'RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Le ministre de la Santé a déclaré sans rire que la logistique de la vaccination marchait du feu de Dieu. Bonjour Olivier Véran.
Rien à péter.
Pardon ?
Vous m'insultez, je vous réponds, j'en ai rien à carrer.
Non, je vous disais simplement bonjour. Vous êtes à cran, vous, en ce moment ? Vous avez dit aux députés que vous vous contrefoutiez de leur avis sur la politique vaccinale.
Oui, je m'en balance, je m'en tape, je m'en tamponne, j'en ai rien à cirer, je m'en baloye si vous préférez.
Vous pouvez quand même accepter quelques critiques ?
Non, je suis le champion, I am the best, the king of the world. D'ailleurs, Olivier Véran n'habite pas sur Terre, c'est la Terre qui est sous les pieds d'Olivier Véran.
On commence à être inquiet pour votre santé mentale, Olivier Véran.
Savez-vous que Jésus était né en 1980, avant Olivier Véran ?
Bon ?
On dit ces temps-ci qu'il a ressuscité. C'est faux, car Olivier Véran ne l'a pas vacciné. Vous m'excusez, j'ai un rendez-vous, on veut me donner mon nom au soleil.
Eh ben c'est ça, allez vous reposer. L'extension des mesures sanitaires à l'ensemble du territoire national pose problème à de nombreux Français qui s'y perdent un peu dans toutes ces restrictions. Faisons le point avec nos amis Chevalier et Laspalier. Ah.
Bonjour monsieur, contrôle de police, est-ce que vous avez une attestation ?
Une attestation ? Mais enfin, le président a dit qu'elle n'était plus nécessaire.
Elle n'est plus nécessaire si vous sortez à moins de 10 km de chez vous. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes à moins de 10 km ?
Ben, je peux pas vous le prouver, puisque j'ai pas d'attestation.
Et pourquoi, dites-moi, pourquoi vous n'avez pas d'attestation ? Hein ? Pourquoi qu'il n'en a pas d'attestation ? Hein ? Pourquoi qu'il n'en a pas d'attestation ?
Parce que je suis à moins de 10 km de chez moi. Je suis juste sorti pour acheter un nouveau slip.
Ah, oh, ça va pas être possible, monsieur. Les marchands de vêtements sont sur la liste des commerces non essentiels.
Ah oh bon ? C'est bizarre. Parce que ce matin, ma femme a pu s'acheter des disques chez le disquaire.
Oui, c'est normal, les disquaires sont classés dans les commerces essentiels.
Voilà.
Parce que la musique, c'est plus essentiel que les vêtements.
Je fais comment, moi, alors ? Il me faut un slip neuf.
Et bien, faute de pouvoir acheter un slip, allez chez le disquaire. Achetez le dernier album de Camélia Jordana et foutez-vous-le au cul.
Voilà, voilà, voilà. Le nom Valérie Giscard d'Estaing sera accolé au musée d'Orsay.
Ah oui.
Voilà, qui a dû faire plaisir à son fils spirituel, François Bayrou.
François, c'est vous, Valérie ?
Oui, c'est moi, François, Valérie.
Oui. Aimons-nous vivants,
oui.
N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. J'adore toutes vos chansons, François, Valérie.
Mon Dieu, mais qui est bête. Il a beau avoir une grosse tête, il n'y a rien dedans. Je ne suis pas François Valéry, je suis Valéry François.
Mais qui me parle? Je ne connais pas de Valéry François.
Ben, c'est pas possible, alors c'est dans les oreilles d'être complètement bouché. C'est moi, Valéry Giscard d'Estaing, l'UDF. Je vous parle de là-haut. J'ai interrompu un scrabble avec le mouchemise. C'est sympa le mouchemise. Je me rappelle quand j'étais au bord de la piscine. Vous savez, avec mon mouchemise de sauton, le bord en slip, Marlène Jobert, le bikini, oh, je suis de...
Pardonnez-moi, Valérie, mais j'ai beaucoup de travail. Je suis haut commissaire au plan. Et le seul plan que j'ai réussi à proposer en 6 mois à Emmanuel... C'est un plan de travail pour sa cuisine équipée du Touquet. Une cuisine au mobile pas que j'ai dénichée dans la zone industrielle de mon grand pot, entre la halle aux chaussures et le Buffalo Grill.
Ah ouais, bon, faut t'en pelle le coquillard, mon plan. Des plans. Je vous visite pour vous remercier de ma part, le président, d'avoir rebaptisé Orsay à mon nom. C'est bien Orsay. C'est Orsay, l'origine du monde de Courbet. Ça, c'est pas Julien. C'est juste un sèche charnu de défilé. On voit pas le visage. Mais moi, j'en ai bien connu cette dame, l'origine du monde. Elle m'appelait mon gros minou quand j'étais minette.
Arrêtez, Valérie, ça m'excite. Mais ma grosse tête devient toute rouge.
Dites à Emmanuel qu'il doit maintenant donner mon nom à la Tour Eiffel. Ça me représente bien la Tour Eiffel. Moi aussi, quand je fréquentais Lady Diana, je dardais vers le ciel.
Quelle fresque.
Oh là là, on s'en remet pas. Ah oui, l'émission L'heure des pros sur CNews ne cesse d'accroître son audience, à tel point que notre ami Pascal Praud travaille sur un nouveau format encore plus mordant qu'il a intitulé L'heure des crocs. Nous nous en sommes procuré évidemment un extrait.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure des crocs, l'émission qui mord les mollets de la bien-pensance, des véganes et des néo-féministes. Je reçois aujourd'hui Alain Finkielkraut, Laurent Geoffrin et Jacqueline Delarey de Mediapart.
Vive en jeu.
Et nous allons bien sûr parler des nouvelles mesures en vigueur en France. Alors je vous pose la question, faut-il rouvrir le bagne de Cayenne pour y envoyer les pignoufs qui nous gouvernent? Monsieur Praud, le gouvernement n'est certes pas exempt de critiques, mais la question telle que vous la formulez me paraît un peu simpliste. C'est pas grave, j'en ai une autre sur le variant anglais. Comment se fait-il que les roast beef nous fassent encore autant chier alors qu'ils sont sortis de l'Europe?
Une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec monsieur Finkielkraut. Mais c'est vrai que vos questions sont un peu simplistes.
Ça tombe bien, je me fous de votre avis. Je me tourne vers Laurent Geoffrin. Ça va, Laurent?
Qu'est-ce qu'il y a, Laurent?
Mais en particulier, on n'y comprend rien avec votre baillon à boules. En même temps, c'est pas plus mal, je me fous de votre avis à vous aussi. Eh bien, merci les amis pour la qualité de ce débat. L'émission touche à sa fin. Dans l'heure des crocs 2, on parlera de l'avis d'imposition qui vient d'arriver dans nos boîtes aux lettres. Où va notre pognon? L'argent public est-il dilapidé par des paniers percés incompétents? Doivent-ils nous rendre l'argent en nous présentant des excuses? Je poserai la question à Jean-Claude Dacier et Yvan Rioufol, bien connus pour leur bienveillance et leur modération. Allez, taisez-vous, Laurent Geoffrin. L'émission est terminée.
Quel bon débat, merci infiniment.
Puis c'était, je voulais équilibré. Préciser que dans le rôle de Laurent Geoffrin, oui. Nous avons
Jérôme de Verdière. Quel talent.
Il sait tout faire.
Ah mais il fait le Geoffrin comme personne. Ça, ça c'est le Geoffrin à
boule.
Pourvu qu'il revienne, absolument. Alors, je vous remercie beaucoup de ce grand moment de débat. Il nous a éclairé sur le monde tel qu'il est. Je vous souhaite une excellente journée. On vous retrouve sur le site RTL.fr et nous avons rendez-vous demain matin.
Voilà.
Et ben demain.
À demain.
Acceptons-en l'augure. Alors, dans quelques instants, ce que j'espérais être une petite salade gourmande avec notre camarade Cyril Lignac, bon, lui, il dit que c'est plutôt une bonne piémontaise qui tient encore. Je vous laisse faire le choix. Enfin, je sais pas, on n'a pas encore choisi définitivement notre axe. Allez, à tout de suite avec Cyril Lignac dans un instant sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Nos auditeurs vous posent comme d'habitude leurs questions. Alors, bah, je dois le rappeler, rtl.fr/participer. Visiblement, vous avez très bien compris. En particulier Laura, elle vit à Villeurbanne, dans le Rhône, et elle voudrait votre avis sur une recette de salade gourmande qui tient au corps. Voilà, elle veut que...
que ce soit copieux.
Oui, elle veut que ça soit copieux.
Alors, c'est le jour des enfants, et moi, j'ai un souvenir fantastique de cette salade de pommes de terre que faisait ma mère avec des œufs durs, on y met un peu de mayonnaise, on y met plein de choses à l'intérieur. Et du coup, déjà, de nature, la salade de pommes de terre, à partir du moment où on cuit les pommes de terre, qu'elles sont chaudes, on les cuit avec la peau, on les laisse tranquillement sur le torchon, on les épluche. Et il n'y a rien de meilleur qu'une salade de pommes de terre tiède.
Oui, vous avez raison.
Donc,
ça exhale les parfums, en fait.
Soit on écrase les pommes de terre, soit on les coupe en petits morceaux. Mm-hmm. En fait, c'est une salade très familiale. Donc, moi, je cuis des œufs durs, je coupe des pommes de terre, je mélange les œufs durs avec les pommes de terre, je fais une petite mayonnaise, je fais une petite sauce cocktail, mayonnaise, un petit peu de ketchup pour de l'acidulé, j'ai la moutarde bien, pour qu'elle ait du goût, et ensuite, j'ajoute des cubes de jambon blanc, assez épais.
D'accord.
Ensuite, je mets des petites tomates, des petites belles petites tomates cerises là. Les premières arrivent de Sicile. On les coupe en quatre, on met à l'intérieur. Des petits oignons, des cornichons, du persil. Et je prends une belle salade romaine ou une feuille de chêne. Et là, je la mets au fond de mon plat que j'assaisonne. Et dessus, je dépose sur ce lit de salade, la salade de pommes de terre, un peu mayo. Alors, on peut mettre aussi un peu de thon. Si on veut pas mettre du jambon, on peut rajouter des olives, du maïs. C'est vraiment la salade de la maison d'une maman, quoi, comme ma mère me faisait.
Bon, écoutez, moi, vous savez, la cuisine de Madame Lignac-Mère, suis pour dans tous les cas de figure. Merci beaucoup, Cyril. On embrasse votre maman. Voilà, l'astuce du chef est à retrouver sur notre site et notre application rtl.fr. RTL. Il est 9h.